Le podcast du Voxel commence dans une minute.
Hey, bienvenue sur Radio Voxel. C'est la suite tant attendue de notre premier podcast. Petit 1 parce que le premier podcast était extrêmement chouette, surtout pour un premier podcast. Et petit 2 parce que vous attendez impatiemment notre avis aussi brillant que subjectif sur ce fameux E3 2015.
Alors oui.
Et si j'ai dit nos avis, c'est parce que je ne suis pas seul, les petits gars. J'ai mon compagnon, mon destrier fidèle habituel du Voxel, Arnaud. Bonjour.
Bonjour les petites cocottes.
Bonjour Arnaud.
Et vous avez entendu notre chroniqueur fou, Simon.
Bonjour le Voxel.
Ah, ça fait plaisir.
Oh, c'est le fameux Forban.
En fait, c'était moi.
Forban Forbu.
Pour ceux qui n'ont pas l'image, nous avons une magnifique perruque devant nous.
Doupé.
Bah, on va revenir sur ce fameux E3 2015. On va commencer par donc la thématique principale dans quelques instants. Et puis ensuite, on attaquera la question qui pue. Chacun pose une question à ses camarades. Et puis ensuite, donc, on va zapper notre jeu du moment parce qu'on va parler de beaucoup de jeux. Et on va se finir en chanson comme d'habitude.
Ouais.
Alors,
chouette.
Vous êtes d'accord? Vous validez ce sommaire?
En même temps, on n'a pas le choix, sinon on se fait attaquer.
Vous avez raison. Alors, cette E3 2015, est-ce que c'était bien? Pour le savoir, nous allons donc, dans ce premier podcast, attaquer uniquement les gros jeux, hein, et puis on va faire tous les indés dans un deuxième podcast, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup trop de jeux dont on veut parler.
Là, c'est le principe d'un salon de jeux vidéo.
Ouais, c'est ça, mais... À la base, on n'imaginait pas ce foisonnement d'indés. Alors, on va reprendre les conférences une par une, les petits gars. On a commencé d'ailleurs la pré-conférence Oculus. Hein ? Ah, vous attendez pas à ça ?
Oh !
La présentation de l'Oculus Rift version finale et des fameux contrôleurs version finale. Et Microsoft qui rentre dans la danse. Ah, on se demandait comment ils vont faire ces gars-là, ils n'ont rien. C'est en réalité virtuelle, boum, d'un coup, ils ont un casque.
Ils n'ont pas rien, ils ont un chéquier, les mecs.
C'est ça, c'est exactement ça.
Est-ce que c'est vraiment Microsoft qui a un casque ou c'est juste qu'ils vendent une manette en cadeau, quoi?
Bah, il y a la manette, il y a la manette en cadeau, mais du coup, ils ont le casque, il est compatible avec la Xbox One. Parce qu'ils se sont rendus compte avec leur HoloLens, merde, c'est pas du tout prêt notre machin, puis ça n'a rien à voir, comment on va faire? Ils ont trouvé un petit deal comme ça, voilà, pour.
Mais je trouve ça justement bizarre, parce qu'on dirait justement qu'ils ont fait ça un peu. Elle va vite juste avant le 3, parce que ça, Microsoft, on a à peine reparlé. Ça n'a pas l'air très, très mis au point en termes marketing, en termes d'annonce.
Bah, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de jeu encore, tout simplement.
Ouais. On ne dirait pas un vrai partenariat, on dirait une idée qui vient d'être trouvée. Ah, bah, on va mettre une manette en cadeau avec.
Ouais, mais ça, c'est vraiment. Je pense que c'est là où ils ne sont pas idiots, dans cet aspect marketing, c'est d'associer dans l'esprit des gens Oculus à la Xbox One. Bah et ouais. Oculus, lui, va avoir un soutien pour développer des jeux, du coup, dans la manière dont il a été amené par la plateforme PC. Et du coup, la passerelle va se faire assez vite, ça va leur permettre d'alimenter ce système sans trop d'investissement de la part de Microsoft. Je pense qu'ils ont été très très malins.
Dans le fond, on peut pas trop présager de ce que ça va devenir, mais c'est juste dans la forme, j'ai l'impression que c'est une annonce qui manquait de spectaculaire, je trouve. Ils auraient pu l'annoncer de manière plus spectaculaire.
Attends.
Genre coup de théâtre. Ben, non, mais
j'étais
avec toi, Nico, pendant la conférence. Enfin, nous étions
ensemble.
Communication. Et j'ai vu ton enthousiasme. Et du coup, moi, j'étais pas très enthousiaste. À vrai dire, je m'en foutais un peu.
Oh.
Et j'ai regardé un peu après sur Internet et j'ai pas vu beaucoup d'articles enthousiastes sur la question. J'avais pas l'impression que c'était un événement complètement fou.
Bah, c'est vrai que c'était surprise, et c'est juste s'il y avait un Halo à présenter en mode VR, en réalité virtuelle, là ça aurait fait du bruit. C'est juste qu'il n'y a pas un jeu pour montrer. On a juste vu une meuf sur son canapé qui joue dans le casque là, en mode j'ai une grande télé chez moi.
Ça c'était scandaleux.
C'est un gadget quoi.
C'est pareil, c'est une vidéo de 3 secondes. Enfin, on dirait qu'ils ont fait ça le jour même quoi. Vite, il nous faut un truc. Un salon virtuel. Enfin, je trouvais ça tout pourri moi.
Et je pense aussi qu'ils savent pas encore.
Ils auraient mieux fait de pas montrer ça.
Ils savent peut-être pas encore trop comment vendre aux gens qui ont pas le casque sur les yeux, comment leur vendre le truc. Parce que tu peux pas t'en rendre compte, ça c'est compliqué aussi. Ils sont peut-être pas encore très à l'aise aussi avec ça.
Bah, clairement, moi qui pensais que c'était l'E3 de la VR, je suis plutôt déçu. Mais je pense que pour les constructeurs, c'est l'E3 de la VR, parce qu'ils ont eu l'occasion beaucoup de la tester sur le salon. Aux journalistes et aux badauds.
Oui,
et
tout je pense ce qui se passe en arrière-plan, quoi. Je pense que là, ça a beaucoup travaillé. Ouais.
Mais c'est ça qui est un peu bizarre. tu vois, c'est que avant l'E3, on a cette fameuse conférence Oculus, où on se dit, putain, voilà, c'est quand même un indice qu'il va y avoir beaucoup de réalité virtuelle. Et au final, hein, quand on arrive à la fin du salon, on se dit, bah merde, elle était où la réalité virtuelle?
J'ai envie de dire, elle était virtuelle.
Et voilà, c'est ça, elle était dans notre esprit, dans notre imaginaire.
Mais il y avait beaucoup de casques mis à disposition pour tester sur place, apparemment. On ne l'a pas trop vu, quoi.
Nous, on n'en profite pas vraiment, mais
sur place, je pense qu'eux en ont profité pour recueillir le maximum d'avis sur les casques.
Mais c'est comme pour les consoles, hein, le nerf de la guerre, ce sera les jeux, et pour l'instant, il n'y a pas encore assez de gros jeux.
Oui, en tout cas, voilà,
ça c'était le petit truc. Moi, j'étais quand même content de voir qu'ils balancent des contrôleurs dédiés à la réalité virtuelle. Quand on regardait la conférence ensemble, et que je te disais, ouais, ils vont être obligés de montrer un contrôleur qu'ils ont fabriqué, et qu'ils parlent de la manette qui est avec tous les casques, je me dis, oh là là, mais pourquoi ils font ça? Alors que depuis très longtemps, depuis le début d'Oculus, les mecs ils disent, voilà, la manette ça nous limite dans la réalité virtuelle, on voit qu'il faut un truc spécial, et ils sortent une manette, tu te dis non! Et à la toute fin, heureusement, Palmer Luckey débarque avec ses contrôleurs qui ont l'air de très bien foutus d'ailleurs.
Oui, oui.
Puisque t'as des sticks, t'as des boutons, et en plus t'as la reconnaissance de la main. Donc, je crois que même disent
que c'est pas très précis ça.
Bah, c'est suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire que quand tu le prends dans ta main, la main elle apparaît dans le jeu, et hop, tu déplaces ton bras et tu le vois déplacer dans le jeu. Et tu peux faire coucou ou pointer des objets. Pour l'instant, ça suffit. Ils ont trouvé un compromis, tu vois, entre un truc qui fonctionne vraiment et qui peut être fait maintenant. Que si on attend des gants avec retour haptique et tout, ça sera dans très très longtemps.
Surtout, on se sera directement branché au niveau du tronc cérébral, voilà. On s'emmerdera moins.
Et en plus, la VR, moi, je pense que ça marchera. Ça marcherait peut-être beaucoup mieux s'il n'y avait pas de manette.
Bah, c'est bien qu'il y ait un truc physique, tu vois, c'est comme le Kinect, par rapport à la Wiimote, c'est quand même, ça pose problème. En tout cas, on reviendra là-dessus peut-être plus tard, hein. Là, c'était juste pour le préambule de l'E3, commencer sur les auspices de la réalité virtuelle, et on a déjà dévoilé que ça n'a pas été trop le cas derrière. En tout cas, première conférence, vraie conférence, nouvelle conférence, Bethesda. Tiens, on va faire une conférence, on a des gros jeux cette année, attention. Ça a duré... Une heure quinze, je crois, leur conférence. Et ils n'avaient pas beaucoup de jeux à montrer, mais ils les ont montrés de manière sympathique, c'est-à-dire qu'on a vraiment vu du gameplay. Par exemple, Doom, c'était la première fois qu'on le voyait. Il n'y a même pas de cinématique, même pas de titre. On est directement dans le jeu et on voit une session qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Ça, j'ai trouvé ça fort agréable de leur part. Si vous avez un avis sur la conférence de manière globale, donc, où il y avait Doom, Dishonored, Fallout...
Je crois qu'en face de Doom, j'avais mis rien à foutre sur la fiche que tu m'as donnée.
Mais sur la conférence Doom, globale, sur son
la conférence,
rythme...
C'était agréable à regarder. Ça a très bien démarré le 3. J'étais content à la fin.
Surtout que c'est leur première en plus.
Ben ouais. Elle était déjà bien rythmée par rapport à d'autres qui en font chaque année.
C'est une bonne idée d'avoir mis sur scène un Lilliputien aussi. Avec une voix aiguë, là. Je sais pas comment il s'appelle. Le mec qui était là pendant Todd Hines, je sais pas quoi. Voilà. Moi, j'ai beaucoup rigolé.
Mais il présente bien. Je trouve que, tu vois, il n'était pas chiant à écouter, ce mec.
Non.
Donc, au niveau jeu, on rentre dans le... Donc, Doom, ça n'intéresse personne, hein, je crois.
Si, Doom, mais j'attends d'en voir un peu plus. Pour l'instant, bon, c'était assez court. Ils sont partis sur le côté très multijoueur aussi, avec le système d'éditeur de niveau qui a l'air... plutôt bien fichu.
Ils ont compris l'intérêt de la communauté pour ce Doom. Ils savent très bien tous les modes et les trucs qui ont été faits.
Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de trouver un bon compromis entre un bon solo pour se dire j'ai acheté un vrai jeu, et après tout le reste qui va se développer aussi petit à petit et laisser aux gens un peu la possibilité de se faire leur propre kiff, leur propre délire.
Mais tu vois, moi j'attendais rien de Doom, j'ai jamais joué à un Doom, c'est juste un jeu que je connais forcément quand tu es né dans les années 80, que t'as une console et un ordinateur, t'en as vu des images et tout ça. Oh, il y a eu des versions sur Super NES et tout.
Oui, mais c'était des enfants bâtards.
Oui, c'est un jeu PC. Mais quand je l'ai vu, ça m'a fait un effet. Bon alors, ils avaient un PC de malade, t'avais zéro aliasing, mais vraiment zéro quoi. Moi, ça m'a fait un effet, c'est aussi par rapport au style du jeu, tu vois, c'est pas un truc militaire, c'est des monstres, c'est l'enfer avec des boules de feu. Ça m'a rappelé Imagina, le salon Imagina, dans les années 90.
C'est vieux, oh putain.
Le salon des images de synthèse. Et j'ai eu cette sensation, pourtant c'était du gameplay, tu vois, d'être dans un truc en images de synthèse et de faire, ah ouais, tu sais, t'as cette sensation de présence des objets, parce que il y avait rien qui clignotait ou qui bougeait, c'était extrêmement propre et solide. Et voilà, même si le jeu m'intéresse pas à fond, j'ai une sensation. Tu dis, les effets de lumière et tout ça, on arrive à un point où c'est l'image de synthèse d'il y a 10 ans, quoi.
Ben, c'est peut-être parce que c'était là au tout début de l'E3, mais moi je trouve qu'il y a des jeux qui sont au-dessus graphiquement, genre Battlefront, moi j'étais vraiment sur le cul.
C'est pas le plus beau, hein, c'est mais pas c'est, Doom, c'est hein, plus c'est... par D'accord, rapport au style de Doom, tu vois, où les textures un peu dégoulinantes, je sais pas, ça m'a rappelé vraiment l'esthétique Imagina, pour ceux qui ont connu ce salon
l'esthétique Imagina.
Qui passait sur Canal+. Donc voilà pour Doom, en tout cas. Jeu où...
Moi j'ai joué à l'époque, hein, Doom 1, Doom 2 et compagnie, Doom 3 pas trop.
Ils ont trouvé un bon équilibre.
Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à reprendre ce qui était, enfin, juste
ce qui était Doom, voir, ouais.
le délire des premiers et de le transposer vraiment. Doom 3 était un peu à part dans le.
Est-ce que comme les gens dans la salle, dès que tu sors une tronçonneuse, tu fais ou pas?
Bah écoute, ouais, regarde dans Left 4 Dead, quand je sors une tronçonneuse, je hurle.
D'accord, ouais, je comprends pourquoi ça ne me touche pas.
Par contre, Simon, tu es peut-être plus touché par le deuxième jeu présenté, qui était Dishonored numéro 2.
Ouh. Ah bah oui, je suis très content d'avoir vu des images, et je l'attendais. Bon, à vrai dire, j'attendais du gameplay.
Ouais.
Donc bah, là, je l'ai un peu dans l'arrière de mon corps. Mais par contre, ce que j'ai vu m'a beaucoup plu, c'est-à-dire un deuxième personnage avec des
nichons.
Oui, une fille en plus. Et c'est l'année, enfin, peut-être qu'on n'en parlera jamais pendant ce podcast, donc c'est quand même l'année où on a vu pas mal d'héroïnes et je suis plutôt satisfait.
Bah, les mecs se sont dit, vu qu'on voit les personnages à la troisième personne, autant voir un petit cul sympa.
Et pourtant, ils disent non, ça se vend pas les jeux avec des meufs, à chaque fois ça fait un échec, à part Tomb Raider, ça marche jamais.
Ouais, mais ils sont tellement emmerdés par la presse que maintenant ils sont obligés de faire gaffe.
Tant mieux pour nous.
Mais bref, à vrai dire, je me fous que ça soit une fille ou pas. Mais ce qui me plaît, c'est qu'elle a des nouveaux pouvoirs, des nouvelles capacités, et que du coup, ça annonce un nouveau gameplay, un vrai nouveau gameplay, et que la bande-annonce était jolie, et qu'elle se passe dans un univers autre que celui Dishonored, je sais pas comment il dit, j'avais un peu saturé de cet univers anglais, glauque, gris, bleu, là,
marron victorien,
qui était très joli, hein, voilà, et je suis content que ça se passe ailleurs, le Dishonored 2, visiblement.
Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord.
Donc je suis très 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 optimiste.
Voilà. Moi, je suis d'autant plus dans le délire que je suis en train de finir le premier.
Donc t'as rien à dire, ferme-la. Tu peux pas en parler tant que t'as pas fini le jeu entièrement.
Je suis à la fin là, je suis en train de botter le cul aux mecs qui m'ont trahi.
Ah. Oh non, t'as spoilé, il y a des gens qui ont trahi.
En tout cas, moi je l'ai jamais fini parce que.
T'avais parce peur
que
encore.
Non, mais ma technique à ce jeu, c'est que je veux tout rincer. Or, il arrive un moment où on ne peut plus tout rincer, ou alors faut être une brute épaisse.
Il y a des ennemis invincibles.
Faut être quelqu'un avec beaucoup de skills que je n'ai pas. Et donc c'est à partir du moment où il y a les bonhommes sur les échasses, là, je digresse un peu, où là ça devient très difficile de faire tout en furtif.
Ah bon? Parce que t'es nul, effectivement.
Bah je suis une merde,
ouais. Et sinon, il faut que tu regardes les codes sur Internet.
Je l'ai fait en entier, en furtif, sans tuer personne et sans jamais être détecté. Je suis très content.
En fantôme, bravo. Mais non, mais je suis mauvais, hein. J'ai même fait venir un pote chez moi pour qu'il me montre, mais ça suffit pas.
Et toi, d'ailleurs, en disant ça, ça me renvoie à Doom, où justement t'avais ces codes que tu ouvrais sur le 2 exposant.
C'est bien de parler des jeux quand même actuels.
Pardon. Non mais c'est le problème d'Arnaud. C'était pour dire que ça s'était perdu. Tu ouvrais la console développeur, tu mettais ton petit code et c'était parti. Et c'est un truc qui s'est perdu. Pot of Gold dans Warcraft 2, c'est un truc mythique. Ça n'existe plus.
On a oublié parce que notre mémoire a oublié le 18e siècle.
Dans GTA, si tu fais ça...
Donc il fait des mouvements un peu comme un oiseau.
Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'on voit pas. Mais en gros, si tu fais une espèce de danse bizarre, tu peux faire apparaître des tanks ou des hélicoptères.
Non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeux, les gars, c'est tout.
Comme la danse de la pluie chez les Indiens.
En suivant. Enfin, en tout cas, super bien.
Allez, en tout cas, Dishonored, effectivement, où c'était qu'une cinématique, alors que moi, j'en ai rien à foutre des cinématiques. Là, j'ai apprécié de la regarder parce que je sais que le jeu, il sera au moins comme le premier, donc il sera génial. Et que là, ça permettait de découvrir un univers qui était effectivement développé. Il a l'air plus ouvert. Tu vois, c'est plus cette lumière extrêmement blafarde. Il y a une partie de forêt. Je me dis, j'espère qu'on va pouvoir crapahuter un peu là-dedans.
Ah, ça, hein, ça.
ça donne envie. Et même le côté steampunk, il est développé. Quand elle ouvre une porte, toute la pièce se transforme en machine.
Ouais, c'était classe.
Et il y avait un petit peu ça dans le premier.
Salon, mais... si tu veux venir.
Ouais, je veux bien la vidéo de ton salon qui se transforme. Donc en tout cas, nous sommes excités pour Dishonored, qui n'a pas de date d'annoncer.
Et surtout c'est du nouveau grave. Gameplay.
Qu'ils prennent leur temps pour bien le faire, on s'en fout, on est patient.
Mais je suis effectivement... La vidéo, même si c'est de la cinématique, je trouve ça rassure. Et du coup, j'ai envie d'attendre. Tu vois, j'ai envie d'avoir cette sensation de « Oh, j'ai hâte d'avoir le jeu !» Mais pas tout de suite, prenez le temps. Et pendant ce temps-là, ça va être le meilleur moment. C'est le moment où on attend de kiffer. Et c'est le moment d'attaquer le troisième jeu, Fallout 4. Le gros morceau. Putain. Il y avait eu vite fait une petite... je crois un petit bout de cinématique juste avant le salon, non ?
Il avait annoncé. De toute façon, c'est quand même un E3 où ils ont tout annoncé avant l'E3.
Oh, pas tant, hein, je trouve pas.
Je trouve pas mal quand même.
Donc, Fallout 4, excitation ou pas ? Parce que Arnaud, quand même, en mode blasé, à chaque fois qu'on te parlait d'un jeu, tu disais mais j'ai fait celui d'avant, donc je m'en fous. J'ai fait Fallout 3, donc je m'en fous. Toi, il te faut la révolution à chaque fois. Moi, Fallout 4, tu vois, j'attends pas la révolution, j'attends la suite du 3 en plus sympa et plus joli ou je sais pas quoi.
J'ai envie qu'on me fasse rêver.
Ouais,
et
ouais.
Avant cette E3, quand je pensais au jeu, je me disais une suite, ouais, ça sera sympa, mais ça me vendait pas du rêve.
Bah oui, mais après, tu vas te plaindre qu'on te fait du bullshit et des cinématiques alors qu'il y a que ça qui fait rêver, mon gars.
Non! Là, ils ont montré du gameplay, ils ont pas montré un truc qui est complètement fou visuellement. Ils ont montré un truc qui est. Voilà, le jeu il va sortir bientôt. Et bah, c'était vachement appétissant. Ça donnait envie de se replonger dedans. Et je me souviens à quel point, à quel point j'ai rodé dans le jeu, dans le 3. Tu te balades, tu fous et tu vis vraiment ton aventure dans le truc. Quand j'ai vu là ce qu'ils proposent sur le gameplay. Avec la possibilité de se faire sa base, ces machins, je me dis putain, je vais encore passer des centaines d'heures sur ce jeu.
D'ailleurs, moi j'ai pas joué aux autres Fallout, et je me demande cette histoire de fabrication de maison, au-delà du côté. Même pas du côté Sims, parce que. Est-ce que ça sert à quelque chose ?
Comment ça ?
Bah dans je connais pas le gameplay de ce jeu. Bah, en fait, j'ai du mal à comprendre si c'est une espèce de tower defense à monde ouvert. Enfin,
pas du tout, c'est un RPG
occidental.
Ouais, donc du coup, le fait d'avoir dans un RPG la possibilité de se construire, donc d'avoir son impact dans l'univers, je trouve que ça a une portée très intéressante. C'est-à-dire que du coup, d'habitude, dans les jeux, tu vas récupérer un lieu, tu squattes à droite à gauche, tu chopes un lit, tu dors. C'est un peu foireux. C'est-à-dire que c'est pas tu dors à l'arrache n'importe où, ça
si c'est ça sympa de
c'est
tu peux
marrant
au clochard sous les
y a
ponts,
un côté un peu bizarre tu vois, mais c'est
vannes.
Pas cohérent
des vannes
et le fait d'avoir son lieu qu'on construit soi-même, du coup je trouve que ça, voilà, ça participe au fait de construire son histoire dans le jeu. Donc pour un jeu de rôle, je trouve que ça, au contraire, c'est super cohérent.
Ok,
moi ça me donne envie.
Non, mais moi aussi, j'ai jamais joué et j'ai envie d'y jouer parce que le crafting a l'air complètement dément. Je sais pas ce que ça donne, je sais plus combien de possibilités de faire des armes, si tu rajoutes des bouts de machin, des trucs.
Ouais.
Je me demande l'intérêt que ça a dans le jeu, parce qu'à part esthétiquement, c'est joli d'avoir un flingue bizarre, mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Enfin, j'ai vraiment hâte de voir, mais ça m'a donné très très envie, hein, moi, ce que
je pense que oui, par rapport
justement
à ce que j'ai déjà joué et ce qu'ils font. Que ce soit là sur Fallout 3 ou ce qu'ils ont fait sur les Skyrim, il y a quand même un savoir-faire de tout ça. Ouais, ça aura de l'impact et ce sera lié, ça aura un impact direct sur le gameplay, ce sera pas juste esthétique.
C'est ce qu'ils disaient justement, ils l'ont un petit peu downgradé pour pouvoir le rendre plus interactif, le jeu. Ça, c'est pas des choses qu'on entend souvent. Hein. Les mecs font plutôt des jeux beaux où il n'y a aucune interactivité, c'est que des cinématiques.
Ça, c'est ce qui me plaît, ça me fait rêver.
C'est vrai que moi, après, c'est le problème que j'ai avec Elder Scrolls, c'est les animations de combat qui sont très très raidasses, quoi. Et là, dans ce qu'on a vu, il y a notamment un petit moment, un petit passage où t'as des mecs qui attaquent et qui se prennent les pieds dans un piège qui est gros comme une maison et tout explose. Et c'est d'une laideur totale en termes d'animation.
Ouais.
Mais visiblement, c'est pas le but du jeu, c'est pas d'être beau. C'est...
Ah bah, s'il pouvait, il le ferait. Mais c'est juste, tu peux pas tout faire. T'es obligé de faire un choix à un moment pour que le jeu y rentre sur un DVD qui rame pas.
Mais du coup, ça en devient presque esthétique, cette raideur.
Oui, vois, ça... c'est qu'un problème d'animation, parce qu'après, le chara-design est vraiment très très chouette. L'espèce de scène d'intro, tu choisis comment modeler ton visage, là, c'est très bien amené, c'est très bien mis en scène, c'est vraiment, vraiment super bien. Ça donne très très envie, ce jeu.
Ce qui fait juste peur, c'est qu'il va falloir jouer 120 heures pour kiffer toute l'histoire.
C'est pas que ça fait peur, c'est que tu t'en rends même pas compte.
Ouais, mais... Si, tu t'en rends compte dans ta vie quand tu reçois les factures et que tu peux plus les payer parce que t'as été viré et que t'avais pas fait gaffe que t'étais viré. Parce que tu t'en foutais complètement.
Oh, ça va, j'ai mon chat qui vient me rappeler, qui fait « Viens, donne-moi à manger !» Tu reviens dans la réalité, tu vois.
T'as une vie de dingue.
C'est un jeu qui va permettre aussi de se muscler le bras gauche, si j'ai bien compris, avec l'espèce de gros bracelet énorme dans lequel tu glisses ton téléphone pour...
T'es obligé de l'acheter. Ouais, en plus, t'es obligé de l'acheter, l'on dit. Hein. Sinon, le jeu s'active pas.
Mais alors, du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, Arnaud, de ça?
Du Pip-Boy?
Ouais.
Bah, je pense que c'est rigolo. J'aime bien ce côté, le jeu sort
de ma télé, Wii U, quoi.
Et d'avoir cette interaction. J'aime bien le délire. Après, ça reste gadget.
Mais sauf si ça peut dégager l'écran de toutes les informations. Ça, j'aime bien quand il y a
Mais c'est ça, à voir si c'est bien fait. C'est vraiment efficace et fonctionnel. Bon, par contre, moi, je mettrais deux élastiques, quoi.
Au lieu de mettre 150 balles, c'est hyper cher, hein, le truc.
J'ai pas vu.
Tu peux avoir juste ta tablette posée à côté de toi, hein. Ça marche comme ça.
Le délire, t'as ta manette dans les mains, t'as pas besoin d'aller attraper un autre appareil, tu vois, t'as pas besoin de lâcher ta manette, vu que c'est fixé à ton poignet.
Oui, il est sur tes genoux, c'est pareil.
Ah, c'est pas la même sensation.
Le personnage dans le jeu fait le même mouvement que toi, il regarde son bras gauche, donc côté méta.
Mais faut le faire sur Wii U, hein, tout simplement, comme dans Batman Arkham City.
Oui, mais le personnage dans un monde post-apocalyptique, s'il regardait une mablette, il aurait l'air un peu...
Mais non, dans Batman Arkham City, il a un truc au poignet, et ça correspond à ton écran de gamepad. Et ça marche très bien.
Je n'ai pas joué à la version Wii U.
Mais en tout cas, tu vas pouvoir ouvrir ta gueule pour parler de Fallout Shelter, qu'ils ont présenté en même temps. Alors si, je voulais finir sur Fallout 4. C'est la première fois qu'ils présentent vraiment le jeu avec des longs cinématiques de gameplay et te montrent bien en détail le jeu. Donc, et après, ils te disent, il sort le 10 novembre 2015.
Ça me plaît, ça. Moi, j'aime bien quand ça fonctionne
c'est clair,
comme ça.
C'est bien.
Ça fait une sorte d'effet où tu dis, ah ouais.
Mais le mois de novembre va être très, très, très mauvais pour le porte-monnaie, je crois.
Ah bah, comme tous les ans, hein. Tous les jeux ils sortent en novembre.
Comme l'arrivée avant Noël, forcément.
Ouais, mais il y a des années où c'est un peu la disette. Hein. Cette année, il y a l'air d'avoir plein de jeux, quand même.
C'est rarement la disette en novembre quand même dans le monde du jeu vidéo. C'est la disette en janvier-février, mais pas en novembre.
La disette de qualité, pas dans quantité.
Après, oui, selon tes goûts, bien entendu.
Je crois que l'année dernière, je n'ai pas trouvé quoi acheter à la fin de l'année.
Ah bah, cette année, au moins, tu vas te ruiner la gueule.
Bah, faut acheter une PS4, déjà.
Notamment parce que tu veux jouer... Ouais. T'as un PC, tu vas pouvoir faire ça.
C'est con, mais
tranquille.
C'est le 3 qui m'a donné envie d'en avoir une maintenant.
C'était le deuxième pote à qui il me dit ça, donc je pense que...
Ah ouais, moi non.
C'était des Nico, donc tu...
Mais j'ai un ordinateur, donc les jeux qu'ils présentent, il n'y a aucune exclusivité qui me donne envie, tu vois, tout simplement.
Bah si, moi si, justement. Enfin bon, on en parlera tout à l'heure.
On en est à Fallout Shelter, Simon, tu voulais en parler.
Que dire sur Fallout Shelter que j'aimerais bien essayer, mais qui n'est pas encore disponible sur Android. Et
ouais,
que
nous,
je
on doit attendre.
Pas partie de ces gros ringards avec des iPhones.
Voilà, par exemple, comme notre ami qui nous montre qu'il l'a installé dès qu'il l'a vu la conférence, j'imagine.
Bah ça, c'est pas pareil, c'était une très bonne idée de dire
le truc
est disponible maintenant.
Voilà.
Alors oui, tu vas donc pouvoir plus parler que moi de ce jeu, parce que je sais pas trop quoi en penser, je n'ai pas pu le tester. Est-ce que c'est un free-to-play?
Oui.
Est-ce que c'est un pay-to-win?
C'est un free-to-play.
Oui, mais est-ce que alors c'est comme les Simpsons, t'es obligé d'attendre une plombe, de farmer de...
Non, il a dit que non. Dans la conférence,
il a dit que non, mais que non.
Franchement,
voilà,
pas du tout. Je trouve que c'est même plus facile quand il revient.
Fais gaffe à ton micro, Arnaud.
Pardon. Quand tu y vas que de temps en temps, ça se fait tout seul. Honnêtement.
Faut attendre quand même.
Oui, il y a cette logique-là. Mais...
Non, sois plus précis. Il faut attendre certaines choses.
Oui, bah oui, t'as des trucs qui reviennent au bout d'un moment. Tes
ressources. Ah, donc t'as des barres de rechargement quand tu... Oui, les ressources, oui, remarque.
Mais j'ai pas trouvé ça contraignant.
Ouais.
Mais si t'as envie de continuer à jouer et que tu dois attendre, c'est chiant, faut que t'attendes alors.
Ouais, mais du coup, au début, c'est l'impression que j'avais. Les premières parties, je fais putain, c'est chiant, faut attendre, t'es là, c'est gland. Et en fait, le jeu est pas du tout fait pour ça. Tu le lances, tu fais tes petits bidules, tu lances des constructions. Et puis tu sors, tu fais autre chose, et puis 3 heures après, tu reviens, tac, tac, tac.
Enfin, ça, c'est comme tous les jeux à la con sur Facebook et je sais pas quoi.
Ah bah, c'est les mêmes
mécaniques. Tu cliques trois fois et tu dois te casser pendant 5 heures pour pouvoir attendre que le jeu continue. Donc ça marche quand même comme ça. Moi, ça me refroidit complètement.
Ça dépend, en fait. Ça peut être comme ça, parce que dans n'importe quel jeu, enfin, je sais pas, Age of Empire, il fallait attendre que le mec il coupe son arbre pour avoir le bois, pour fabriquer quelque chose. Hein. Mais la différence, c'est qu'on te crie en gros partout, si tu veux, tu peux, pour 3 pièces d'or, acheter tant de bois, et en fait, bah, c'est ton porte-monnaie qui en prend plein la gueule. Mais est-ce qu'il y a de ça ou pas?
À Shineup.
Oui, tu peux acheter des conneries, mais j'ai pas vu l'intérêt.
Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, c'est plutôt...
Je me suis pas dit, putain, c'est abusé, il faut... Non, là, au contraire, me dis, le mec qui va acheter, il est vraiment con.
Non, mais c'est marrant parce qu'effectivement, maintenant, on constate que ça va de mieux en mieux de ce côté-là. Moi, j'ai joué Hearthstone un petit peu. Et c'est pareil, Hearthstone,
c'est un
super
bien,
bon jeu où tu n'as pas besoin de payer hein, pour quoi que ce soit. Ouais. Tu peux t'éclater sans payer. C'est juste les gros malades de ce jeu qui claquent du pognon. Et claquent vraiment du pognon, j'en connais.
C'est eux qui font vivre. Hein. Généralement, les trois quarts des gens, ils dépensent rien. Et tu as 3-4 mecs qui dépensent 10 000 euros. Et c'est ça qui fait vivre le jeu, quoi.
Et donc c'est plutôt bien ce système économique-là qui met personne de côté et tout le monde peut prendre son plaisir. Donc c'est plutôt bien, et s'ils ont réussi à faire avec Shelter, là je vais donc l'essayer dès que je pourrai.
Et puis là c'est vraiment un petit jeu, ça n'a pas une grosse ampleur non plus.
Mais c'est vrai que là on ne parle pas du jeu, il est bien au moins ce jeu ou pas?
Bah, je trouve ça assez addictif, parce que t'as l'impression de voir une fourmilière en fait.
Et ça peut être, tu crois que c'est une bonne introduction, parce que là l'intérêt pour eux, c'est peut-être pas un intérêt économique, c'est peut-être juste de faire rentrer Fallout chez les gens qui connaissent pas et de se familiariser avec l'univers. Est-ce que ça marche?
Exactement, bah, complètement. Je pense que c'est une manière de rentrer dans le délire du comment s'appelle, l'abri, le vault, dans le fonctionnement justement, et du coup tu pourras rentrer dans le jeu. Dans Fallout 4, beaucoup plus facilement, parce que tu auras compris comment fonctionnait l'abri, la vie à l'intérieur, la dépendance les uns des autres.
Qui est la même dans le gros jeu.
Qui est la même, parce que j'imagine que tu commences forcément dans un abri. Quelle manière de construire le personnage. Et donc, du coup, tu sais d'où tu viens dès le départ, t'es moins perdu. Donc, effectivement, si t'as fait le petit jeu avant, pour ceux qui n'ont pas joué au précédent.
Yes.
Effectivement, c'est une très bonne introduction. Bon, bah, t'en raconte pas trop non plus.
Avec Simon, on va attendre qu'il sorte sur Android pour pouvoir le tester, parce qu'on a tous les deux envie de faire Fallout 4 et on n'a jamais joué à un Fallout. Donc, vous voyez, on est les clients rêvés de ces mecs-là. Hein. Ils vont nous
le
ruiner.
Seul truc qui va manquer, c'est le coop.
Parce qu'il y en avait avant, il n'y en a plus.
Bah non, c'est parce que c'est des jeux comme ça où moi je veux faire du coop, pas en MMO.
Ah
juste
oui.
Un coop à 3-4.
Oui, enfin en même temps, on a des jeux, on y joue déjà pas. Alors, Seven Days to Die, on a fait deux parties.
Oui, mais on va s'y remettre.
Alors, tu parles de Fallout 4 ou de Shelter là?
Excusez-moi. Je parle de Fallout 4.
Ah d'accord, ok. Moi, il y a un truc qui m'interroge beaucoup, c'est le chien.
Ouais.
À quoi il sert et pourquoi on l'a pas vu avec une armure méca de gros malade? Vu que l'autre, il peut se construire des trucs énormes, mais il le fait pas pour son chien, il se démerde.
Oh, peut-être que tu pourras lui créer des petits trucs. Hein.
J'espère que tu peux crafter ton chien, quand même. Sinon, ça sert à rien d'avoir un kleps. Hein.
Lui tailler les dents encore plus en pointe.
Lui mettre un laser.
Les pattes en pointe.
Lui mettre des couteaux. Des couteaux aux pattes.
Comme ça, s'il y a du vent, tu peux le planter dans la terre, il va pas s'envoler.
J'imagine le bruit que ça fait quand il marche dans une salle de bain.
Non, mais du coup, je me dis que le chien, rien que sur le fait d'aller récupérer les trucs sur les mecs, ça peut être pratique.
Tu peux t'en servir comme tente de ce chien. Justement, si il a les pattes en pointe, tu l'enfonces dans la terre et hop, ça te fait un abri.
C'est vrai.
Ah, ça va être génial ce jeu. Il y a intérêt qu'on puisse faire ça, bordel.
Et c'est à la mode de faire des compagnons dans les jeux maintenant.
Ouais, bah c'est pour que tu te sentes moins seul. Dans les jeux où tu joues tout seul.
Je pense que c'est aussi pour rajouter dans des arcs dramatiques, narratifs.
Puis ça peut aider pour la narration, tu vois, si à un moment ton chien il fait il se met à aboyer et il t'emmène dans un coin, il peut te montrer qu'il y a un truc à cet endroit que t'aurais pas vu en passant, tu vois. Et ça se fait de manière plus naturelle, c'est pas forcément con. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut pas l'abattre. Moi, si tu vois, au bout d'un moment, j'ai envie de le flinguer le machin.
Pour se faire un manteau, putain.
Bah, t'en sais rien, peut-être que tu peux l'abandonner.
Ils ont dit qu'on pouvait pas s'en débarrasser.
D'accord.
Oui, les gens ont demandé, c'est le premier truc qu'ils ont demandé.
Je suis prêt à acheter un... Moi, je suis prêt à payer un DLC de 15 balles pour pouvoir juste abattre le chien.
Non, et se faire un putain de manteau avec.
Un DLC pour avoir un chihuahua à la place d'un berger allemand.
Bah, ah oui. Il y aura des modes, hein, donc on aura un poney, on aura tout ce qu'on veut.
Une truie.
Là, ça devient stylé. Ça peut devenir une monture, effectivement.
Mickey.
Mickey.
Mario.
Mario. Mais non, le petit robot dans masque.
Un amiibo avec un système de NFC là. Tu passes ça d'abord et t'as tous les personnages que tu veux.
Oh merde, il fait une crise, il mélange tout le pauvre. Tu fais une crise du jeu vidéo. En tout cas, on a peut-être fait le tour de la conférence Bethesda, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais.
Parce qu'on a 60 conférences
à couvrir. Ils auraient pu, pour appâter les gens, enfin ils auraient pu, non, ils étaient pas obligés, ils avaient déjà du contenu. Ils pouvaient faire juste un petit truc subliminal de Elder Scrolls.
Du vrai. Bah
ouais, mais
ils auraient pu se faire.
Ouais. Voilà. Ils l'ont fait avec leur jeu de cartes là, Anti-Hearthstone, je pense. C'était très subliminal ce qu'ils ont montré. Hein.
Puis le DLC pour le online, là, je sais pas quoi.
Ils ont montré des photos, des dessins de personnages de leur prochain jeu de cartes.
Youpi. En tout cas, donc je précise, hein, puisque je ne l'ai pas fait au début du podcast, on parle uniquement des trucs qui nous intéressent. On va pas parler de tout ce qu'il y a eu. Hein, voilà.
Ouais.
Tout simplement.
Ah, sinon, on aurait parlé de Battlecry pendant une demi-heure, qui est génial.
Voilà.
J'ai trop hâte de l'acheter.
Moi, je l'ai précommandé.
C'est celui qui est dégueulasse, là, avec les effets de sang crado. Hein, c'est bien ça. Hein.
C'est une sorte de clone de Team Fortress, mais payant et moche. C'est quand même génial.
Ils ont tenté un truc. Les mecs se sont dit, on va faire un truc moche. Ça va faire jamais.
C'est pour nous. C'est pour les gens moches, et nous, on est trop.
C'est vrai.
En tout cas, très bonne première conférence de Bethesda. Moi, je crois que c'est ma préférée si je regarde juste. Celle où je me suis jamais emmerdé.
Ah, dans
les autres,
oui.
Y a toujours eu un moment où je me suis un peu fait chier, tu vois.
Oui, non, dans la forme, elle était vraiment agréable à regarder.
Ils sont professionnels, les gars.
Voilà. Et derrière, c'est Microsoft qui a dégainé, les gars.
Ah, merde.
Conférence d'1h40. Donc.
Moyenne haute.
Pas moyenne haute. Non, il y a eu un beau record quand même cette année. Donc, Microsoft. Première chose, Arnaud, il veut nous parler de Halo 5.
Ouais, parce qu'à la base, Halo 5, j'en avais mais rien à branler. Et je pèse mes mots. Ça me... Ouais, comme ça. Et puis finalement, bon, j'ai été professionnel, j'ai regardé un peu ce qu'ils nous ont montré, et ça m'a replongé dans le délire de Halo 3, auquel j'avais joué, et qui était déjà un très bon FPS, en mode space opéra avec un bon délire, et surtout la possibilité de jouer en solo, en coop à plein.
En solo, en coop.
Tu peux faire le solo en coop. L'histoire.
Ah, oui,
tu peux faire l'histoire en coop, pardon. C'est peut-être plus clair comme ça. Tu peux faire l'histoire en coop. Et ça, j'adore dans les jeux. Et surtout, tu peux le faire en drop-in, drop-out très facilement.
Mais t'aurais des amis pour le faire ?
J'en trouverai, je vais en acheter, je m'en fous.
D'accord, parce qu'il te faut déjà une Xbox One. Hein.
Des amis ou des...
T'as
besoin d'être ami avec eux, non mais si tu te connectes, t'as bien des gens en ligne avec qui
oui,
jouent,
en plus, je pense que tu peux solliciter... Non, mais le but, c'est de le faire avec des gens que tu connais, c'est quand même plus marrant. Ce que j'avais fait avec à Gears of War, par exemple, on avait fait le solo en coop.
Non, c'est vrai que ça manque des jeux comme ça. Moi, je n'aime ce genre de jeu que en coop, comment dire, à la maison, quoi.
Ouais, voilà, tu peux pas le faire à la maison, le coop.
Dommage.
Bah, ou alors si, mais il faut que chacun ramène son matos.
Il y a une
compliqué.
Version tablette du jeu qui va sortir pour pouvoir faire ça facilement, justement.
Sur Surface.
Bah, d'ailleurs, je précise que là, dans les conférences, j'ai gardé que les trucs qui sont exclusifs aux constructeurs, tu vois, Microsoft, c'est les trucs Microsoft. C'est-à-dire
bien
que si Microsoft, ils ont parlé aussi de Rainbow Six, on en parlera dans la conférence Ubisoft, bien entendu. Voilà.
Et donc Halo, finalement, ça m'a re-appâté. Je me suis dit, putain, de toute façon, ils le sortiront sur PC, il faut pas se leurrer non plus.
Ah, tu crois ? Tous les autres sont sortis sur ordi ? Bon,
bah oui.
Tant mieux, alors.
Je vérifierai quand même par égard professionnel, mais ils sont... Enfin, c'est Microsoft, c'est leur jeu, enfin, ils rentabilisent quand même, ils sont pas fous, les gars.
Oui, voilà,
ça
6 mois après.
Mais ils vont le sortir, comme GTA V est sorti au final sur PC aussi. Le PC est jamais mal loti, quand même.
D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de... Tu aurais aimé Halo 5 en VR, je crois.
Nico, qu'est-ce que ça ?
Je sais plus qui a dit ça, mais je crois que vous parliez de... Vous auriez aimé voir les casques Oculus avec un Halo 5 dedans, par exemple.
Mais ils ont fait un petit truc, ouais, une démo.
Mais HoloLens.
Oui, un truc
une espèce de bunker avec une espèce de petite expérience Halo 5 dans un bunker avec HoloLens. Bon, je sais pas trop quoi en penser, mais ils ont quand même peut-être quelque chose dans la manche.
Je pense que dans la manche, ils ont un bras.
Là,
c'était ça.
Il t'a snipé là.
Parce que HoloLens, franchement.
On en parlera au moment d'en parler.
Je vais te troller la gueule là-dessus.
En tout cas, Halo 5, pareil. S'ils en avaient déjà montré quand même du Halo 5 avant cette
E3. Oui.
Bon, et Halo 6 alors, qu'est-ce qu'on
en pense ? Non, mais du coup, voilà, on est quand même. Voilà, ils ont montré du gameplay, du concret, et voilà, t'as un solo qui tient la route. T'as un multi qui tient la route, c'est quand même un monument du jeu vidéo quand même. Halo, c'est pas usurpé quoi.
Pas pour tout
Halloween.
Le monde. Okay.
Halloween, tout à fait. On peut le dire.
En tout cas, il sort Il sort le 27 octobre 2015. Voilà, pareil, il le montre un peu et il sort pas longtemps après.
Ça c'est bien ça.
Autre chose, Simon, il voulait revenir sur la rétrocompatibilité annoncée.
Oh bah, je sais pas, j'ai pas grand-chose à en dire, mais. En fait, voilà, les gens ont l'air de s'en foutre. Mais moi, je me dis que techniquement, est-ce que ça veut pas dire que les gens qui hésitaient à s'acheter une Xbox One vont se dire, ah bah, je peux revendre ma Xbox 360 maintenant et avec les sous m'acheter une Xbox One.
Tout à fait, bah, c'est le calcul, j'imagine.
Voilà, ça peut être intéressant.
Parce qu'en fait,
les journalistes jeux vidéo ont l'air de s'en foutre complètement, mais parce qu'ils oublient qu'eux, ils payent pas forcément tous les jeux. Ou...
Non, c'est surtout qu'eux ont vu la liste des jeux qui sont compatibles et ils ont vu que pour l'instant, c'est quand même un peu de la poudre aux yeux.
Après, oui, il faut voir qu'est-ce qu'il en est de cette rétrocompatibilité. Est-ce qu'elle sera intégrale ?
Ah bah non, c'est carrément limité pour l'instant. Bah oui.
Mais techniquement, c'est pas forcément.
Vous parlez en même temps, les gars. Je comprends pas ce que vous dites.
Du coup, personne ne veut parler.
Bah non, mais je te laissais reprendre.
Pardon.
C'était ton sujet.
Donc voilà, moi c'est un truc que je regrette sur la PS4 par exemple. C'est un des trucs qui me freine sur la PS4 parce que j'aimerais bien revendre ma PS3 qui chauffe le salon pour rien du tout là. Et puis mettre une PS4 à la place. Mais non, je suis obligé d'acheter les deux et ça va prendre beaucoup de place.
Ah, donc même si c'est bon, chez Sony, toi c'est un argument effectivement qui t'inciterait à passer à une nouvelle génération.
Et puis je gagne 40€ sur l'achat de ma PS4, c'est déjà ça.
Non mais alors là je suis tout à fait d'accord avec Simon hein, sur ce coup là. Le fait de pouvoir facilement changer de console et pas avoir tout à chaque fois, garder l'ancienne parce que j'ai encore des jeux que j'ai pas finis, que je voudrais pouvoir finir et continuer, ça facilite la transition, ça c'est clair et net.
C'est pour ça que je joue sur ordinateur et que j'achèterai sûrement plus jamais de console, personnellement.
sur la Wii U, qui est rétrocompatible.
On a vu l'effet que ça a donné. Hein.
C'est vrai que ça a cartonné. Alors, heureusement, parce que si je joue plus à deux jeux Wii que Wii U sur la Wii U.
Mais statistiquement, les gars, regardez, en début de génération, les mecs ne rejouent pas très 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 peu à leur ancien jeu.
Pareil, ouais.
Donc finalement, c'est pour ça qu'ils sont pas emmerdés avec ça. On verra si c'est un impact hein, sur les ventes de la console. Nouveau sujet, moi je voulais parler vite fait de la manette Elite à 150 balles. 150€
là,
la manette. Voilà.
On a tout compris.
On peut passer à autre chose. Non, par contre, j'ai été déçu, c'est qu'en présentant cette fameuse manette sans fil, du coup, elle utilise ce fameux dongle. Ça, ils en ont pas parlé, ils ont pas parlé du prix. Donc ça m'emmerde parce que potentiellement, ça peut m'intéresser de jouer sans fil du coup sur mon PC, mais dans mon salon. Voilà.
Tu t'achètes un Steam contrôleur, tu arrêteras de nous faire chier. On a dit la même chose en même temps.
On verra si lequel est le mieux. Autre chose,
est-ce que t'as 150€?
Non, mais tu peux utiliser une manette Xbox One normale. C'est juste comme ils ont parlé de leur manette Elite, ils auraient pu parler du dongle avec.
Je pense qu'il sera à 150€ le dongle.
Oui, parce que celui sur la 360 coûtait déjà très cher.
J'ai entendu plutôt sur 30€ hein, pour l'instant. En tout cas, autre petite chose annonce, le Xbox Game Preview, je voulais en parler parce que c'est l'arrivée du Early Access sur console et ça m'emmerde. Ça fait des jeux qui restent 1000 ans, les mecs n'arrivent jamais à les finir parce qu'ils n'ont pas besoin de donner de date, ils n'ont pas besoin de se sortir les doigts. Et même pour eux, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Tu vois, c'est comme un peu ce syndrome qu'on voit sur le Kickstarter. C'est-à-dire que le mec, il reçoit la thune pour faire le jeu peut-être 2 années de développement d'un coup, il a 200 000 euros. Bah, une fois que tu as tes 200 000 euros, dans ta tête, il y a un peu un système psychologique, tu n'as plus besoin de finir le jeu quelque part. Tu as atteint ton objectif, tu vois. Voilà. Tu n'as pas un salaire à comment dire,
à prévoir.
Pas à prévoir, mais un salaire à mériter chaque mois, tu vois.
Tu as vendu ton concept, maintenant, ce n'est plus ton problème.
Voilà, bah, y a pas mal de jeux qui se finissent jamais à cause de ça. Et le Early Access, je trouve que ça va un peu dans ce même état d'esprit. Donc,
Bah, j'ai l'impression que ça casse, en tout cas, des projets qui pourraient être intéressants et qui, avec une organisation un peu plus classique, auraient peut-être pu arriver à terme et ouais, vraiment voilà. Se poursuivre et avoir un vrai jeu.
C'est la question que je me pose. Ouais.
Je pense qu'il y a certains jeux qui se sont sabordés par ce fonctionnement-là. Ouais.
Moi, je trouve que le syndrome des jeux indépendants qui sont jamais finis, c'est un truc assez récent. Et l'early access, moi je trouve que ça aide malheureusement ce phénomène. Et là, si ça arrive sur les consoles, c'est bien qu'il y ait des nouveaux modèles économiques, mais je trouve qu'il y a quelques dérives qui malheureusement font que des jeux ne... Tu vois, genre Broforce, il sortira jamais ce jeu, il va rester en early access.
Prison Architect, j'en ai marre. Hein. J'attends.
Et du coup, tu perds ton intérêt, tu vois, au bout de 2-3 ans, parce que moi je vais pas acheter un jeu qui est pas fini. Et puis une fois qu'il est fini, le refaire, je le referai jamais le jeu. Donc,
oui, mais la nature suit toujours son chemin. Et voilà, toi, tu te feras moins avoir, tu payeras moins, comme la plupart des gens. Et du coup, ce type de système économique,
ça casse
la gueule tout seul si ça marche pas. Ça devrait s'équilibrer. Les gens payeront une fois, s'ils se font avoir, ils payeront pas deux.
Tu vois, tout le monde donne son avis sur un early access. Est-ce que pour un artiste, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux que tout le monde donne son avis et après, tu fais une espèce de moyenne Bon, en tout cas, voilà, je voulais juste en parler par rapport au fait que ça arrive jusqu'aux consoles. Et maintenant, c'est Arnaud qui va nous parler d'un jeu.
Ah bon ?
Qui sort bientôt, qui sort en août. Ça s'appelle Rare Replay.
Comment ? J'ai rien compris à ce que t'as dit.
Rare Replay.
Ah, rare. Rare.
Quoi ?
Rare replay.
Ah, les jeux rares.
Voilà.
Non, les rejeux rares.
Les rejeux rares. Ah bon, j'avais dit que je parlais de ça ?
Bah oui. J'invente pas. Quand bon, tu l'as vu dans la. T'étais chez moi, le seul petit bout de conférence que t'as dû regarder
oui,
parce que t'étais chez moi. T'as fait ah oui que...
J'ai vu de manière très tronquée, effectivement, les conférences.
Que Microsoft a annoncé, c'est la rétrocompatibilité et la possibilité de jouer à d'anciens jeux.
Tout à fait.
On n'a rien en fait. Donc
Bah non, mais au début, tu vois, je me suis dit, oh tiens, ils vont faire un système de console virtuelle et puis ils montrent les trucs rares dedans.
Ah oui.
En fait, non, c'était. Du coup, là, c'est vraiment une compile entière qui sort en disque. Mmh. Et bah, pour le coup, ça m'a donné plus envie parce qu'en plus, ça va pas être très cher.
600 euros, ils disaient.
Non, ils ont pas donné le prix, je sais plus.
Bah, c'est un jeu en disque.
4 euros.
40 balles. Hein.
Bah, c'est pas cher pour un jeu Xbox One.
Un jeu Xbox
non, mais,
One.
Et du coup il est vraiment hyper dense. Il y avait presque la totale, quoi. Bah ouais, et c'est pas des jeux dégueulasses. Tu te dis pas, ils me foutent Arkanoid, 15 versions de Arkanoid, tout ça. Je trouve que c'était une belle compile et bah finalement ça me donnait envie. Je sais pas, il y a un truc qui a marché.
Je crois pas qu'ils sortent en 360 sur 360. Je crois pas.
Parce qu'ils ont déjà sorti quelques-uns des jeux rares en Xbox Live Arcade.
Quoi?
Tu dis quoi à qui?
À vous deux, parce que j'ai pas compris aucun
des
deux.
Je sais plus qui disait, ils le sortent pas sur 360, mais en fait ils ont sorti déjà une partie des jeux rares sur le Xbox Live Arcade à l'époque.
Ah ouais, donc ça
ils ont pas besoin de les ressortir. Et là, je trouvais que c'était pas mal de voilà de faire la passerelle entre des nouveaux jeux et ces jeux-là qui restent bons même 15 ans après.
Après, ça parlera pas à tout le monde, hein. Vieux jeu en 2D.
Non. Ah non, mais voilà, ça permet de se dire, bah tiens, là, je me fais mon petit kiff entre deux jeux AAA, je me ressors ça. Et c'est sympa.
Je crois qu'il y a même Banjo dessus, hein, Banjo et Kazooie.
Ouais, je crois qu'elle est. Bah, les Banjo étaient sur l'Xbox Live Arcade.
Très bien. Et bien maintenant, Simon va nous parler de Sea of Thieves.
Ah bon?
Ouais.
Ah oui, mais alors, pareil.
Les mecs sont surpris à chaque fois.
C'est ce que j'aime bien.
J'ai pas grand chose à dire sur ce jeu parce qu'on n'a pas vu grand chose, mais l'idée d'un MMO pirate me plaît. Voilà.
Ouais,
ça a l'air. Enfin, ce que j'ai vu est pas très joli. Voilà. Mais ça change un petit peu. L'univers de pirate, on l'a déjà vu dans le jeu vidéo, mais dans les MMO. Puis, ouais, cette espèce de bataille en bateau avec des groupes d'amis, ça peut être très rigolo à faire.
Moi, j'aime pas du tout l'univers pirate, donc tu vois, ça me parle moins.
Bah, ce serait pirate ou autre chose, je m'en fous. C'est juste que j'en ai un peu marre de l'Heroic Fantasy et de la guerre. Donc pirate, je trouvais ça rigolo.
Voilà. C'est marrant que comment certains univers sont liés à des gameplays et on se tape que la même chose tout le temps.
Bah, c'est bien qu'ils changent. Sauf que là, concrètement, sur des bateaux, c'est géographiquement intéressant, du coup, puisque c'est un groupe qui se déplace, qui va se taper sur un autre groupe. Enfin, ça peut apporter vachement de choses au gameplay, ça peut être assez marrant. Et il faut voir à quel point chaque membre du groupe a un rôle sur le bateau. Je pense pas qu'il y en a un qui va se taper le...
Les voiles.
Arnaud veut parler.
Ah non, mais du coup, moi quand j'ai vu le jeu, alors je me dis que ça peut être effectivement marrant et le côté équipe est toujours sympa. Après, bon, le mec qui doit tourner la poulie, il va bien se faire chier.
Ça sera moi.
Mais
je chanterai en même temps.
Ça m'a surtout fait penser à un mode de. Je crois que c'était sur Counter-Strike, où c'est pirate versus viking versus chevalier, qui était très drôle.
Et les chevaliers meurent dès le début, noyés.
Mais non, mais du coup, chacun avait ses armes et ses trucs, et ça me faisait penser à ça, et voilà, c'était pour l'anecdote.
Justement,
du coup, tu parlais de ce côté, que les pirates, là, ils mélangeaient tout, ça te ferait peut-être plus marrer.
Tu parles toujours des trucs hors sujet, toi, mon pauvre vieux.
Ouais.
T'as un problème psychologique.
Super.
Ça commence à... Il y a une sale ambiance dans ce podcast.
Mais en tout
cas, je vais raconter une blague alors, pour le coup, pour remettre la bonne ambiance.
T'en as une par rapport aux pirates, là ?
Pas du tout.
Ah merde. Mais du coup, quand tu joues à ce jeu, si tu tombes du bateau, que le bateau fait pas demi-tour, bah, game over, faut que tu rachètes un nouveau jeu. Ça peut être vite économiquement chiant.
Les mecs ont peut-être oublié de mettre un respawn effectivement dans le jeu.
Ils vont pas se faire chier à faire des décors en plus, c'est pas mal. Si tout se passe en bateau.
c'est
bleu. Une map géante de mer, et puis si tu croises un mec, tu le tapes.
Très bonne idée, donc c'était le nouveau jeu rare justement, après leur compilation des vieux jeux. Simon, comme tu es chaud, tu vas continuer. Tu vas nous parler de HoloLens Minecraft.
Ah!
Enfin, un truc
parce
qui
t'excite. Ouais, voilà, oui, c'est vrai que c'est le truc qui. Peut-être le truc qui m'a le plus excité.
Qui pourtant sera vraiment.
Mais
pourri,
je vais être le seul personne au monde, à peu près comme c'est toi, clair. Quand tu as découvert que l'Oculus était vendu avec une manette Xbox. Moi, j'étais dans le même état émotionnel quand j'ai vu le Minecraft. Alors.
Ah non, mais moi, j'étais triste quand j'ai vu qu'il y avait une manette avec.
Bon, c'est hors sujet. le Minecraft, j'explique. Ah, la manette,
vas-y.
Tu veux dire pendant le truc HoloLens?
C'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire mon état d'excitation quand j'ai vu la manette
HoloLens vendue avec l'Oculus.
Ouais, non, ça j'étais deg. Puisque je voulais un vrai contrôleur, pas une manette.
C'est,
j'en ai rien
c'est
à
pas
foutre.
Adapté à de
j'ai
la
manette
virtuelle.
Moi.
Bref. Donc, je reviens sur HoloLens. Moi, je suis très enthousiaste parce que je sais plus si je l'ai dit la dernière fois ou pas, mais HoloLens, c'est pas l'avenir du jeu vidéo.
C'est clair.
Voilà, ah. On arrête. Là, c'est fini. Par contre, c'est l'avenir du jeu de société. Putain de merde. Ça peut être vachement bien d'imaginer un Minecraft, mais qui est en fait une sorte de Lego à l'infini sur ta table. T'as juste à définir quelle taille fait ta table, ou tu peux le faire par terre ou machin. Et t'as des pièces à l'infini, tu peux scroller ton univers tant que tu veux, et tu peux fabriquer tout ce que tu veux. Ça peut être génialissime. Donc, je continue sur cette idée de jeu de société. Je pense que HoloLens, ça peut être le jeu de société amélioré, dans le sens où on peut imaginer Jumanji, donc c'est ce que je disais l'autre fois, on peut imaginer jouer à Jumanji en famille, si on a tous notre casque, et voir des petits animaux courir sur la table, et ça peut être très très fun.
Donc le principe, c'est de vendre des packs de 4 HoloLens, quoi.
Mais c'est ça le problème.
Par exemple, oui, mais si chacun ramène son HoloLens... Mais non, mais moi, je me projette dans 20 ans.
Ah non, mais du coup...
Parce que en plus, il a été...
J'aime bien cette idée, effectivement. Je trouve ça plus pertinent par rapport au concept HoloLens. Mais oui, ça doit devenir un objet qui est familial et qui, du coup... Oui, pour le coup, il se détache complètement de la télé et du jeu vidéo.
Mais
et
après,
il rentre dans un autre créneau.
C'est l'HoloLens, c'est la Google Glass, c'est ce qu'on veut, en fait. C'est juste la réalité augmentée. Ça sera peut-être pas l'HoloLens, ça sera sûrement pas l'HoloLens. En plus, sur le salon, ça a été testé par des journalistes et c'est assez foireux, le système de Minecraft, ça marche pas très bien. Donc, je m'en fous de ça. Mais c'est juste que ça m'a un peu ouvert les yeux sur ce que ça peut être et pourquoi l'HoloLens m'enthousiasme plus que la VR. C'est parce que ça peut rajouter une couche aux jeux de société habituels ou aux jeux de construction et que ça peut être dément. L'autre intérêt sur Minecraft par exemple, c'est que tu es en train de manipuler un monde et que tu as ton pote qui lui est en manette sur un écran et qui se balade dans ce monde. Donc tu peux imaginer plein de gameplay.
Oui, il y a des interactions qui sont. Oui.
Voilà.
Là, on peut être sur du gameplay asymétrique de manière un peu classe.
On a bien vu que les développeurs ils sont un peu kéblo et que dès qu'on leur demande de faire un truc un peu différent, il n'y a plus personne. pour développer du truc asymétrique.
Oui, mais il faut partir sur une autre expérience. Effectivement, le jeu de société peut être une première entrée dans l'utilisation de cette réalité augmentée. Ouais. Effectivement,
je ne sais pas si vous avez joué à Hearthstone, j'en parlais tout à l'heure, qui cartonne à mort sur Internet. Un Hearthstone avec des lunettes de réalité augmentée, mais si tu joues sur une table avec des cartes et des QR codes ou je ne sais pas quoi, qui permettraient...
Ils n'avaient pas fait ça sur PS4 d'ailleurs. Ça existe.
Si, ils avaient fait un truc pour les gamins avec un livre.
Non. Il y a un jeu de cartes qui se joue comme ça, et quand tu joues tes figurines, du coup, ils apparaissent sur ta télé en réalité augmentée. Ouais.
Non mais j'imagine encore une fois dans 20, 30, 40 ans tu joues aux cartes et là quand tu balances un super j'y connais rien en jeu de cartes, quand tu balances un dragon de mon cul là, tu vois vraiment le dragon arriver et cramer la gueule de ton pote, enfin ça peut être vachement bien pour le jeu de société, et donc je suis très enthousiaste de ce genre d'expérience, même si je sais que ça n'arrivera pas avant un bon moment techniquement parlant.
Non mais vendu en tout cas ça peut marcher effectivement. Ouais.
C'est un peu ça le problème, c'est que c'est vraiment pas pour tout de suite, donc je sais pas ce qu'ils bricolent à nous présenter ça, parce que...
Ah, Minecraft, ça va être... c'est pas techniquement, ça semble pas irréalisable,
oui, mais
je pense que d'ici quelques temps, ça sera possible.
Pour le faire à plusieurs, faut que chacun ait un casque, ça doit coûter très cher, et puis il faut que t'aies une machine qui soit capable de gérer 4-5 affichages.
On s'est jamais posé la question de est-ce que c'est difficile de jouer au Lego à plusieurs. Le Lego, généralement, tu le fais tout seul et c'est génial. Et là, tu peux faire un Lego là, putain infini, quoi. Ça peut être... Enfin, je veux que mon gamin ait ça.
Moi, je préfère qu'il ait des vrais cubes. Hein. Pour son développement, ça sera plus
mais
efficace.
Mais là, il en aura des milliards. Il pourra les inventer, ces cubes. Il pourra
mais
faire
si,
ce qu'il veut.
Enfin, si le bol est touché avec sa main, c'est très important pour le développement d'un enfant. Mais ça, c'est un autre sujet. On fera un podcast spécial sur ça.
Autre chose. On s'arrangera.
Oh,
C'est dégueulasse.
Le podcast monte d'un degré.
Je sais pas, peut-être qu'on peut imaginer qu'il ait un cube dans la main pour manipuler les cubes qui manipulent. Enfin, on peut imaginer plein de choses, mais moi j'étais fou de joie de voir ça.
Mais dans le concept, je vois ce que tu veux dire. C'est juste que le HoloLens en lui-même, là, tel qu'il est concrètement, pour moi, ça sera pas ça et que ça va aller très loin, quoi.
Non, mais c'est. Je sais bien que là c'est pas enthousiasmant ce qu'on a vu et que en plus c'est encore mensonger parce que concrètement ça marche pas bien. Mais ça, c'est ça qui me donne envie.
Tu veux dire que dans les conférences, c'est pas la réalité qu'on voit ? Que quand on a vu le mec jouer, c'était pas exactement ça ? Quoi ?
C'est une réalité
virtuelle.
Tu veux
qu'on parle de The Division dès maintenant ?
Bah en tout cas, on a fait le tour de la conférence Microsoft, il me semble.
Ah ouais ?
Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Si vous avez la suite, ça fait déjà un bon moment qu'on podcast.
Bon, non, alors Cuphead, c'est en mode indépendant. Hein,
exactement, voilà. S'ils essaient de s'acheter l'image d'autres trucs. En tout cas, dans ce qui était ce dont on avait parlé dans le premier podcast, on n'a pas vu le Scalebound de Platinum Games. Ils ont préféré pas en parler parce qu'ils avaient rien de joli. Et ils n'ont pas parlé du dongle. Donc moi, ça m'emmerde.
Par contre. Ils ont mis une belle voiture sur la scène à un moment donné. Ils ont mis pas mal de gros mecs pakistanais habillés en vert de dos pendant toute la conférence. C'était un grand spectacle.
Ça, c'était génial,
ça,
les mecs.
On en a pris plein la gueule.
toutes les interventions de dos, c'était extraordinaire.
C'était complètement ringard comme conférence.
Peut-être que les mecs sont aveugles, ils étaient juste là pour entendre. Hein.
Ah,
on ne sait pas, mais il y a très certainement une réponse. Les mecs ont gagné un concours.
Les mecs, ils retranscriptent. Tout, ils retapaient, ils n'avaient pas besoin de voir. Ils étaient en train de taper les trucs.
C'est clair.
On n'avait pas pensé à des mecs qui sont aveugles, effectivement, là ça aurait été logique.
Ah, du
par
coup,
contre,
on ferme notre gueule.
Moi j'avais pensé à une possibilité, c'était des prisonniers qui étaient punis. Et du coup, on leur annonce vous allez aller à l'E3, les mecs sont trop contents, et après on leur dit mais vous serez devant, vous verrez tout de dos.
Et
là ils sont non, vous êtes des enculés, c'est encore pire que de pas y aller. Voilà, c'était ce qui me semblait le plus évident.
Possible. Mais oui.
Et vous verrez une bagnole. Merci Microsoft.
De derrière. Vous aurez les pots d'échappement dans le cul, dans la gueule. Et on passe à EA qui ont fait donc leur conférence le soir chez nous à 22h. Et il n'y a qu'un seul jeu qui nous intéresse chez EA.
Non.
Si, il n'y a qu'un seul jeu, mon pote.
Oui, d'accord. Ouais.
Vas-y.
Il y a une Ravel, mais j'ai oublié de le mettre sur la liste.
Il sera pas.
Il est dans les 1D, non ?
Il est dans les 1D.
Tu l'as mis dans les 1D, d'accord.
Parce qu'il sort aussi sur PC, etc. Donc nous avons que Star Wars Battlefront. qui a fait son petit effet sur tout le monde, je pense.
Bah, oui. C'est clair.
Nous sommes nés dans des années qui font que Star Wars, ça nous fait quelque chose, même s'il y a plein de mauvais films.
Non, je m'inscris en faux. J'en ai rien à foutre de Star Wars, personnellement. Je ne suis pas du tout fanboy de Star Wars.
Bah.
Je n'ai jamais été fan de Star Wars. Je suis désolé. Mais par contre, j'ai
pris
ma bonne claque. J'ai quand même pris ma bonne claque. Et enfin bon, après.
Bah, c'est bizarre. C'est bizarre que ça t'excite du coup si.
Mais j'ai trouvé ça vachement beau.
D'accord.
Surtout, voilà, c'est tout.
Non, parce que c'est le fait de retrouver l'univers aussi joli qui fait un effet supplémentaire. Je pensais
mais
pas que.
Moi, je suis pas fan de Star Wars, mais je trouve que la ce que j'ai vu est enfin.
Les stormtroopers,
c'est ça,
ouais.
Qui se prennent des balles et qui tombent là. On dirait des comédiens qui jouent mal quand ils chutent, comme dans le film. Et les sons sont parfaits, tout est vachement beau et t'as vraiment l'impression d'être dans un film avec les défauts du film.
Ils ont trouvé le CD, ils avaient le CD des bruitages de Star Wars Collector.
Moi,
et voilà.
C'était dans Yoda Story.
Oui, c'est vrai que les sons, ça leur a pas coûté très cher.
Yoda Story, putain, avec le thème pour ton bureau Windows.
Exactement.
Ah oui, pendant un moment, notre ordinateur, c'était Star Wars.
Donc vous êtes vraiment des fans de Star Wars de base.
Oh, une certaine limite quand même. Mais étant donné que
c'est un... Qui n'a pas mis un thème sur son ordinateur quand il était jeune, quoi. Où le pointeur était dégueulasse.
Ah oui, le pointeur en tête de Yoda ou je sais pas quoi.
Non, en sabre laser.
Alors moi, j'avais un thème
de
My Louise.
Bah écoute Simon, ce que je te propose c'est qu'on fasse un podcast cinéma aussi tous les deux.
Oh putain, ça va chier.
Et on trouve une troisième personne, on demande.
Je viendrai avec des perruques, je ferai comme Simon, le mec qui connaît rien.
Nicolas Bruno, si tu nous écoutes.
Oh merde. Et pareil, Star Wars Battlefront, ils mettaient des fois une image d'un poster, un truc, tous les gens étaient excités. Nous, pour l'instant, on n'en avait rien à foutre.
Exactement.
Là, quand on a vu le jeu, on est excités. Et ils nous disent, il sort le 17 novembre 2015.
Brrr, oh là là.
On n'attend pas, les gars.
Oh là 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 là. Bah, moi, juste un truc, j'ai pas trop pigé. Parce qu'il y a 2 ans, je crois qu'ils ont montré des images d'un jeu Star Wars qui était vachement belle. Alors, je sais pas si...
C'est cinématique.
Non, c'était pas une cinématique. C'était une séquence de bagarre. Avec je sais plus les personnes, ça doit être Luke Skywalker, je sais pas quoi, qui dans un espèce de couloir, il y avait des explosions, ça ressemblait beaucoup à du Uncharted en fait, mais en mode Star Wars. Vous rappelez pas de ça?
Ça ne dit rien. C'était
je sais
pas
que
juste...
je regardais pas parce que ça sentait l'arnaque.
C'était
et
pas
j'attendais
une...
ça moi du côté Star Wars et en fait c'est Battlefront qui arrive qui a l'air d'être autre chose, mais
c'était pas pour leur MMORPG Old Republic là. Il y avait
peut-être,
plein de scènes cinématiques pour du nouveau contenu. C'était peut-être cette merde.
Ouais.
Regardez.
En tout cas, voilà. Moi, je commence à me mettre au jeu compétitif de tir. Et
avec Splatoon.
Avec Splatoon, il y a eu Titanfall avant. Hein, c'est lui qui m'a inculqué. Left 4 Dead aussi avec des potes. Star Wars, je dois dire que le fait que ce soit cet univers me fait un effet raga. Parce que d'ailleurs, oui, alors ça, ce que je trouve très bien dans le principe du jeu qui s'appelle Battlefront, donc ce sont des fronts de guerre, c'est que tu as une situation qui est déjà en place, que tu connais. Il y a une base rebelle et il y a des enfoirés qui viennent essayer de les dégager de là.
C'est peut-être des gentils, on sait pas, ça dépend de quel côté tu joues, hein.
Et tu peux jouer les méchants. Mais c'est pareil, quand tu joues les méchants, t'as déjà une situation qui est en place, tu vois. T'as un rôle, tu sais qu'eux, ils sont dans leur terrier et tu vas aller les dégager et bousiller leur truc d'énergie. Ouais. T'as pas besoin qu'on te donne de contexte ou quoi que ce soit, tout de suite, t'es pris dans l'action. Tu sais qui fait quoi et ça, je trouve que ça ajoute quelque chose de supplémentaire à ce genre d'affrontement en ligne.
Et puis surtout, c'est des affrontements où il y a plein de possibilités.
Tu peux être au sol,
tu peux être dans les vaisseaux, il y a plein de...
Alors d'ailleurs ça je me demandais parce que dans la vidéo de démonstration on voyait le mec changer on voyait la caméra changer de point de vue régulièrement pour nous montrer tous les points de vue, mais apparemment tu vas pas faire genre tout en étant un comment on appelle ça, un soldat au sol,
un troufion,
ou tout en étant dans un X-Wing. Quand t'es au sol tu peux faire un appel à un renfort et tu passes dans un X-Wing, tu passes de l'un à l'autre. Moi je pensais que t'allais faire tout le combat en avion et que t'allais soutenir tes troupes comme ça, et visiblement non.
C'est DICE hein, qui fait
tout à fait.
DICE c'est eux qui font les Battlefield,
voilà, il y a les véhicules dans Battlefield. Donc,
et tu fais pas que véhicule ou que troufion.
Non mais je me demandais, je trouvais que ça pouvait être...
spawn,
je trouvais que ça pouvait être cool de faire une bataille que en mode vaisseau, tu vois, t'as un point de vue vraiment particulier et après tu l'as fait au sol.
Mais techniquement tu peux aussi.
Ah oui, d'accord. Tu peux choisir de, d'alterner ou pas.
Mais oui, parce que d'accord. Star Wars Battlefront, c'est pas le premier, hein, y en a déjà eu.
Ouais, ouais, je sais que c'est pour ça que les fans étaient excités.
Qui était déjà très sympa, d'ailleurs. Je pense pas qu'il soit fondamentalement révolutionnaire, celui-ci.
Ouais, ouais, ouais.
Mais il dépoussière...
Bah là, le visuel, c'est une des claques du salon. Visuellement, tout le monde a été subjugué.
Mais c'est ça, ça dépoussière un truc. En termes de gameplay, il y avait déjà un truc très riche. Donc ils n'ont pas eu besoin de réinventer la poudre. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça va être juste mortel. On va pas voilà. Tortiller du cul pour chier droit. Hein,
et moi, je vais m'y mettre, je pense. Hein.
Oh putain.
Et tu vas... C'est magnifique. Ça donne vraiment envie de jouer à ça. Quoi.
En plus, les enculés, il y a le film qui sort juste après, un mois après.
Mais oui, c'est... Ouais. Là, hein? Maintenant, on va en bouffer du Star Wars.
Ça, ils vont nous écœurer avant même que la fête commence. Hein? On les connaît, les gars.
Oh, ils vont nous appâter avant.
On est déjà appâté. Moi, j'ai pas besoin. Je veux pas en voir plus de quoi que ce soit, tu vois.
Regarde, là, c'est bon, là.
Est-ce que
attends, hein, on est l'été, c'est le moment creux là.
Bah, et puis après, derrière, ils font la promo pour la sortie du jeu pour le film.
Est-ce qu'on a une idée du downgrade potentiel graphiquement
sur
vous
PC?
Vous avez entendu des journalistes dire des trucs ou
pas? Non. Encore trop.
Non, justement.
Celui-là.
Il me semble qu'il y en a un qui a vu une démonstration. Il avait l'air de tourner sur une PS4. Ah oui. Et il était pratiquement comme on l'a vu nous dans la vidéo.
Bah, étant donné qu'il n'y a pas de décor destructible.
Ouais, et puis c'est pas immense non plus la map. Donc,
voilà,
ça
je pense
de...
qu'effectivement il y a la possibilité d'avoir un truc extrêmement joli.
Ils ont trouvé les bons shaders pour faire les effets d'étincelles, les trucs comme ça.
Ouais, la neige est magnifique.
Il va pleurer le gars.
Tellement Louise.
Il va pleurer. Tout à la fin
je vais acheter d'une montagne avec une bagnole. un taille ou je sais pas.
Attends,
quoi.
Je l'ai pas
un
encore scooter. Vu, tu viens de me spoiler la fin là, c'est ça? Putain.
Ah merde. Non, tout va bien. Tout va bien.
Le
Tellement Louise et le Samari.
En tout cas, j'aime beaucoup ce système de podcast qui glisse tout doucement au début. Les gens écoutent pour jeux vidéo, à la fin il n'y a plus de jeux vidéo, c'est un podcast cinéma.
Ah bah ils nous cherchent avec Star Wars machin.
C'est vrai.
Et Mad Max.
Et du coup, on a fait le tour de Star Wars. Hein. Là, clairement. Tout le monde l'attend, ce jeu. Et on
Mirror's
passe.
Mirror's Edge, c'est de la merde.
On passe justement à une autre conférence. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on
ouais,
va,
on va pas en parler. Hein.
On passe à Ubisoft. C'était à minuit. Hein. On avait les yeux qui commençaient à piquer, mais on a quand même regardé leur conférence.
Juste
tout d'abord.
Parce que
oui,
comme Simon, il parle Mirror's Edge, je préfère rester sur le souvenir que j'ai du premier.
Oui, bah.
Plutôt que de pleurer avec le deuxième.
Ils sont tellement sympas avec toi qu'ils ont refait le premier, du coup.
Bah, c'est ça, je préfère rester dans. J'ai kiffé, bref.
Très bien, digression encore inutile. Nous pouvons passer bon. Chez Ubisoft.
Quel nazi celui-là.
Ah, j'essaie de lancer des pics pour que ce soit temps, un peu plus délirant.
C'est pas des pics, c'est des insultes, monsieur.
Bah, c'est pour que tu réagisses.
Pour la peine, je vais faire une blague pour remettre un peu de jovialité.
Ah. Mais t'en as vraiment une là?
Alors, pourquoi est-ce que le foot c'est rigolo?
Pourquoi le foot, c'est le foutre ou le foot?
Le foot, le foot, le football.
Le football.
Parce
pourquoi
qu'on se paye des barres.
Non.
Transversal.
Ah, c'était
parce que...
pas mal.
Non, c'est pas loin. Et parce que Thierry Henry.
Ah.
Oh merde.
Thierry Roland pourtant.
Oh là là. On peut peut-être trouver une blague basketball avec Thierry Roland, je sais pas. Faut chercher. Si
non,
vous en avez une.
Avec le tennis, Thierry Roland Garros, tu vois. On
ah.
Peut...
Oh. Pas mal.
Alors, on va rajouter une rubrique calembour jeux vidéo pour Arnaud parce que tu as un talent naturel. Et mais c'est pas à toi de parler. Enfin, tu as le droit, hein, mais c'est Simon Dronet qui ah. Simon tout court.
Ah merde.
Merde, je l'enlèverai, je mettrai un
Monsieur bip. Simon.
Monsieur Simon qui va nous parler de South Park, il a envie.
Oh, non, mais putain, j'ai pas mis ça sur ma liste.
Bah, j'invente pas quand même.
Mais j'ai rien à dire de ça.
Et bah tu vas en parler.
J'ai fini le premier. Bah,
et bah moi je vais le faire. Parce que j'ai mis. Y a plein
c'est
de...
inutile, je trouve, mais bon.
Il y a plein de jeux où il y a plusieurs personnes qui veulent en parler. Et je vous ai donné la priorité. Et moi j'ai des choses à en dire.
Ah bah vas-y, parle.
Ce magnifique jeu de mots déjà. South Park The Fractured Butthole. Butthole, c'est un cul. Donc c'est la fracture du fion, si vous voulez.
Ouais.
Et en même temps, ça veut dire la personne qui a une fissure en lui, mais qui est quand même complète. Hole, ça veut dire complet. C'est assez...
métaphysique comme blague.
C'est très bien trouvé pour ceux qui maîtrisent la langue de l'anglais. Simplement, on n'a pas vu de gameplay. Et moi, ce qui m'avait refroidi sur le Stick of Truth, c'était les fameux combats au tour par tour. S'ils pouvaient enlever ça, j'achèterais potentiellement ce jeu. Et ce qui était marrant quand même, c'était l'espèce de de comment dire, de naturel de Treston et Parker là, donc les créateurs de South Park, où ils viennent, ils disent, on avait dit qu'on ferait plus jamais de jeux vidéo, nanana, et en fait on vient vous présenter un jeu. C'est parce que quand on a fini le jeu, on s'est rendu compte que maintenant on savait comment on faisait les jeux. Et qu'on s'est dit, c'est con, maintenant qu'on sait faire, c'est un peu con de pas en faire. Hein. Et eux, ils en ont rien à foutre, hein, tu vois. C'est vraiment ce qu'ils ont vécu, tu vois. Ils voulaient faire un jeu, et ils se sont rendu compte à la fin, ah ouais, c'est vraiment très très différent de faire de l'animation et tout. C'est une autre narration, etc. Maintenant, on est prêt, donc ça serait quand même bien qu'on en fasse un. Hein. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont améliorer, parce que il était déjà... de ce que j'ai pu en lire, sympa le Stick of Truth. Donc ouais, celui-là, si maintenant ils savent faire des jeux et qu'ils enlèvent les tours par tour, je l'achète day one.
Les tours par tour et les longues périodes où il faut se déplacer. Les déplacements sont très longs.
C'est un tour par tour un peu dynamique quand même.
Ouais, mais je m'en fous.
À base de paix, de machin, donc ça passe vite. Hein.
Bah, c'est South Park.
Mais c'est juste. Oui, non, mais c'est très très bien. Moi j'ai joué, je trouve ça bien. C'est juste que je l'ai pas fait, c'est un peu mou du genou, quoi. C'est un peu mou. Et puis je crois que la gestion du, je sais pas comment on dit, enfin les menus étaient chiants, enfin dès que tu voulais changer ton bâton, ton machin, fallait mettre
l'interface.
Donc il y avait effectivement des problèmes. Mais par contre, d'accord, rien ne dit, enfin peut-être que cette façon de dire maintenant on sait faire des jeux, donc on va en refaire un. Peut-être que ça indique qu'ils vont refaire un jeu de cette façon, ce style-là. Mais peut-être qu'ils vont faire autre chose.
Ils vont faire un jeu de plateforme, non?
Ah, tu veux dire que ce sera peut-être pas potentiellement
ça sera un platformer, un shooter, je sais pas quoi. Ça pourrait être marrant qu'ils fassent autre chose, du coup.
Il y avait eu un South Park en 3D mode FPS. C'était merdique. Mais le seul truc qui était rigolo, c'est que c'était bataille de boules de neige et tu pouvais faire de la neige jaune.
Oui, j'ai joué à ça.
Ah oui, d'accord.
Hein.
Bah, tout le monde sait ce que c'est que la neige jaune.
Oh, j'aime bien. J'adore South Park. Je veux devenir South Park. Si je pouvais un jour être tellement célèbre que j'apparais dans South Park, bah alors là j'aurais réussi ma vie.
Prochain podcast, on se déguise en South Park.
Oh putain.
J'avais pas pensé à cet objectif, ça peut me donner de la motivation, ça. Ouais, putain. Bon, en tout cas, on peut passer à la suite. Alors, je vais lancer. Est-ce que t'as plus de choses à dire, Simon, sur For Honor?
Non, je l'ai pas mis sur ma liste, c'est impossible.
Ah bah tiens, For Honor,
mais c'est pas
je vais
possible.
Rebondir avec ce que j'ai dit tout à l'heure qui était une digression. moi, quand j'ai vu For Honor, ça m'a fait penser à ce mode pour Counter-Strike qui s'appelle Pirate versus Chevalier versus...
Alors, cédé par les vieux jeux.
Peux-tu nous décrire,
c'est exactement le même concept.
On a complètement oublié depuis le début de décrire un petit peu les jeux vite fait, hein, très rapidement. Mais moi, j'ai besoin d'uriner. Donc, si tu pouvais décrire un peu le jeu et continuer à en parler, okay, je vais courir uriner et ça sera
moi,
parfait.
Moi, je vais aller faire caca.
Ouais, donc, pendant que j'ai l'antenne à moi tout seul. Alors, donc, For Honor, c'est donc un jeu d'action où des camps, un peu la manière d'un Deadliest Warrior, on va faire s'affronter des samouraïs, des vikings, des chevaliers, donc des gens qui à la base ne se côtoyaient pas. Donc c'est un mélange, un hybride un peu de Dynasty Warrior, puisqu'on va avoir un personnage qu'on contrôle avec d'autres personnages qui eux sont contrôlés par une intelligence artificielle. Et il va falloir prendre possession d'un terrain, progresser, et donc avec un système ou de capture de drapeau ou de capture de territoire. Voilà, globalement. Et donc, au-delà de cet aspect, donc avec les capacités spécifiques à chaque... ou les chevaliers, ou enfin chacun a des capacités particulières, il va y avoir aussi donc les affrontements ou contre les NPC, donc les personnages dirigés par l'ordinateur, ou contre un autre vrai ordinateur, avec un système très intéressant de gameplay de duel en 1 contre 1 avec 3 directions, droite, haut, bas gauche, bas droite, où on va attaquer ou garder sur ces directions. Donc ça a l'air très dynamique, très intéressant dans la nervosité des combats, et à voir du coup ce que ça peut donner comparativement à ce qui existe déjà. Je sais plus comment s'appelle ce jeu qui existe déjà sur Steam, Warblade ou un truc comme ça.
Angry Bird.
Angry Bird Night. Donc voilà. Donc t'as dit que ça de rebondir par rapport à ce que j'ai dit.
Moi j'étais là en fait, j'entendais, c'était plutôt. T'as l'air de t'être beaucoup informé sur ce jeu, il a l'air de bien te plaire en tout cas.
Mais non, mais je l'ai vu, ça me parle, ça a fait des références à des trucs que je connais, alors c'est facile.
Mais c'est ce que tu disais, c'est un jeu qui t'intéresse vraiment ou pas? Il a l'air un peu bizarre, différent
quand
même dans son fonctionnement.
Tu me chatouilles.
Parce qu'il y a une sorte de combat par des IA, quoi. Ils sont, c'est, tu vois beaucoup de chevaliers, mais c'est 4 contre 4.
Ouais.
Et tu vois toute une bataille qui se fait par l'ordinateur, et toi, tu essaies de la faire un peu basculer. C'est quand même très spécial.
Bah, pour avoir Hyrule Warriors sur Wii U, qui est un peu sur, sur ce principe, bah, c'est pas mal cette dynamique de progression. Parce que du coup, c'est assez rigolo. Bon, t'as les petits mecs que tu tabasses facilement, la petite chair à saucisse. Et après, du coup, t'as les vrais affrontements contre les autres. Donc, t'as vraiment plusieurs manières d'appréhender ton champ de bataille, des stratégies qui se mettent en place. Qui, c'est pas mal. Enfin, je pense que ça peut moderniser ce système et justement décrasser un Hyrule Warriors qui, lui, n'évolue pas depuis 25 ans.
Ça n'a rien à voir quand même dans les genres. C'est vraiment Hyrule Warriors du Musso. Et puis là, c'est
un combat en ligne. Mélange un peu.
Peut-être, il y a peut-être un bout de ça. En tout
et
cas,
les duels ont l'air super.
Combat à arme blanche, ça change quand même la donne. Hein. Ça fait plaisir de pas avoir de mitraillette, je trouve.
Il y a de la bagarre.
Moi, l'univers me fait complètement débander.
Tu trouves ça moche?
Par contre, je suis d'accord que c'est pas beau. Hein.
Moi, j'aime bien les couleurs.
Moche, triste.
Je trouve les couleurs sont sympas. Moi, je voudrais leurs couleurs.
Moi, j'aime bien le
gris
bleu,
en fait.
Moi, j'aime bien le bleu.
Mais non, il y a du orange et du bleu.
Non, oh. Ça me fait pas rêver, moi.
Vas-y.
Oh, j'allais passer au jeu suivant, à moins que vous ayez encore des...
Non, moi je disais juste le combat que j'ai vu là avec les trois directions, le système de compte, j'ai trouvé ça mortel.
Très bien. Donc plutôt positif sur For Honor.
Mais faut pas... ça peut pas être vendu 70€ ce jeu.
5 balles peut-être. Ils vont faire une révolution.
T'as Star Wars Battlefront 70 boules. Tu peux pas avoir ce jeu-là au même prix.
T'aurais le même jeu, mais avec des sabres laser, tu dirais si.
Moi, je suis vraiment dubitatif sur ce jeu, parce qu'en plus, ça fait pas très Ubisoft, je trouve.
Ah, mais
donc, du coup, je me dis que le gameplay doit être vraiment particulier. Peut-être qu'il y a... Parce que dans l'univers et tout...
Bon, pourquoi Ubisoft, ils ont fait plein de genres de jeux.
Oui, mais récemment, c'est pas vraiment dans l'univers des...
Justement, peut-être ils veulent. Tiens, bon, on a fait beaucoup de trucs hack, bagnole, machin.
Assassin's Creed, c'est pas des chevaliers ?
Comment ?
Si, c'est des chevaliers, mais c'est le côté grosse baston, bourrin à mort. Mais moi, j'attends de voir, hein, j'ai pas d'avis sur ce jeu, j'attends vraiment de comprendre à peu près précisément le gameplay.
Oui, moi, j'attends d'en voir plus aussi.
On a tous cette sensation. Et par contre, peut-être ça t'excite beaucoup plus, Simon, le DLC Trials Fusion Awesome Level.
On voit rien du tout, on voit juste un cheval en feu sur le dos d'une corde. donc on n'en sait pas beaucoup plus.
Un cheval, non, un chat en feu.
J'ai dit un cheval, mais c'est un chat.
Ouais.
Un chat roux.
Soyons précis sur les animaux. Hein.
Oui, quand même.
Après, moi, je sais juste que j'aime beaucoup Trial et que ça me fait plaisir de voir un DLC. Moi, mon mode préféré Trial, c'est quand il y a la musique de cirque et qu'on est dans un truc de clown, enfin je sais pas quoi. Enfin, plus c'est délirant, plus ça me plaît. D'ailleurs, le dernier Trial était beaucoup moins délirant et beaucoup moins plaisant. Ouais.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs.
L'ancien,
exactement. Ouais.
Et donc là, il repasse en mode délire et ça me fait bien plaisir. Je suis sûr que ça sera bien fait en plus.
Et ça va te faire plaisir dès le 14 juillet 2015.
C'est bien quand les trucs
sortent rapidos. Quoi, mais bon.
Comment ?
Il faut que j'achète Trial d'abord, mais.
Moi, je l'ai déjà. J'ai des chronos pour te péter la gueule.
Eh bien, je passe à un autre jeu qui m'a un petit peu fait un effet. C'était Anno 2205, qui sort en novembre aussi, le 3 novembre.
Encore un truc du Seigneur des Anneaux ?
C'est un city builder. Et ce que j'ai trouvé sympa, qui m'a un petit peu fait un effet, c'est qu'il y a ce principe où il faut que tu construises donc sur une planète, sur la Terre, je sais pas. Et quand tu atteins un certain niveau... Hop, tu peux décoller et aller sur une autre planète et la coloniser et commencer à construire sur une autre planète. Cette petite mécanique, je trouve, te donne une motivation à développer ta société, à atteindre un certain niveau technologique.
Envahir tout l'univers.
Exactement, d'être une saloperie de champion.
On revient sur ce que je disais sur les jeux de City Builder, où c'est des jeux de capitalistes de merde.
Non, mais c'est ça, surtout t'es en manque de Planet Cube.
Planet Cube.
Bah, du coup, tu vas pouvoir coloniser des planètes.
Vous avez testé 8 fois sur votre.
Attends, on a un nouveau à faire.
Et tu parles un jeu, personne ne peut comprendre en plus. Ou alors faut que tu décrives tout pendant 10 minutes. Ça
prochaine
va être
vidéo découverte, hein, on met un peu de suspense, on tease.
Planet Cube, l'alpha, enfin.
Allez voir les tests du Voxel, ils sont parfaits, ils sont géniaux.
Vous entendez la voix de... C'est un enfant, Simon. Et les enfants, machin, la vérité.
La vérité sort de la bouche des enfants. Ah,
ouais. Voilà, c'est ça. comme ça que j'ai prénommé mon pénis, la vérité. Alors,
je crois que tu l'as appelé Simon.
C'est une blague avec Michael Jackson, ça, là-bas.
Oh, ouais, c'est fort possible. Et puis, bah, maintenant, Arnaud, tu vas pouvoir ouvrir ta gueule, puisque tu vas nous parler de Rainbow Six Siege, dont on a vu beaucoup plus de gameplay.
Ouais, Rainbow Six Siege, moi, ça me fait kiffer. J'aime bien quand on peut détruire les murs. J'aime bien quand on peut casser les trucs. Non, en fait, non. J'aime bien quand un univers est destructible. Je trouve que du coup, surtout quand on a des gros flingues, des fusils à pompe et des machins, quand je tire dans un mur, ça fait un trou.
Bah, et puis quand même, je me cache derrière un mur, mais il peut exploser à tout moment.
Exactement. Et du coup, pour avoir joué là maintenant à Splatoon, où on modifie la manière dont on se déplace en peignant, là, on va modifier aussi l'architecture du niveau, et je vois à quel point c'est... Non mais oui, bah, d'une autre manière, mais du coup je vois à quel point le fait de faire évoluer la carte et la manière dont on s'y déplace est hyper pertinent dans ce genre de jeu, et à quel point c'est kiffant.
Mais moi, à chaque fois je vois des gameplays de Rainbow Six, je trouve ça vachement enthousiasmant, je dis, ah, trop bien, ça a l'air hyper précis comme gameplay, hyper voilà. Mais est-ce que quand tu joues en vrai, t'es pas un gros bourrin de merde qui tire dans tous les sens?
Ah bah, si t'es un gros bourrin de merde, tu vas peut-être buter un mec, puis tu te fais niquer derrière direct.
Ouais.
T'es obligé de vraiment. C'est vraiment un jeu d'équipe. Rainbow Six, c'est vraiment un truc qu'il faut planifier et réfléchir.
Ça a l'air très stratégique. Moi, c'est ce qui m'a intéressé justement par rapport à d'autres shooters multijoueurs, c'est qu'il faut que chacun ait son rôle, qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait, machin, et qu'on l'exécute
et
exactement. Synchronisé. Voilà.
Est-ce que vous rasez le crâne et vous parlez très sérieusement comme pendant la conférence?
Oh bah, on va pas se raser le crâne, on va s'acheter un faux crâne chauve qu'on posera.
Mais je crois qu'il y a un pack, hein, le pack collector Rainbow Six justement.
Il y a pas Bruce Willis.
Excellent, excellent.
Et donc, quand vous faites une partie de Rainbow Six, vous êtes très sérieux ou vous faites des vannes?
Non,
aussi
bah non, forcément tu rigoles en même temps. Mais du coup, t'as une certaine concentration sur ton objectif. Mais ça reste fun.
On aurait pu en fait déjà savoir ce que c'était si on s'était un peu mis d'accord et qu'on avait joué tous à Monaco en même temps. un jeu de casse de banque.
Non mais...
que j'ai acheté pour jouer avec des gens que j'ai fait tout seul. Alors,
on a beaucoup joué ensemble, donc. Nico.
Comment ?
On a beaucoup joué ensemble.
Non mais après, j'étais obligé de le faire en solo et après on l'a refait tous les deux une bonne partie à deux.
Donc t'es trop mauvaise langue.
En plus c'est un bon jeu Monaco.
Mais c'est un jeu à faire à quatre.
Pour revenir sur Rainbow Six, j'ai joué aux premiers épisodes où on pouvait jouer justement en coop et planifier les sauvetages et tout ça. C'était hyper rigide, hyper. Maintenant, quand on regarde très ringardos, mais il y avait déjà cet aspect tactique. Ils ont fait dériver la série en un truc bourrin qui était nul, qui n'avait plus aucun intérêt par rapport aux autres jeux qui existaient déjà. Là, ils sont revenus sur ces aspects plus stratégiques, plus planifiés, et voilà, et du coup, mais remis au goût du jour. Et du coup, ça devrait être très sympa.
Ce jeu-là, pour le coup, peut bénéficier des avancées technologiques des moteurs et des cartes graphiques, où on peut rendre les choses extrêmement destructibles. Même si c'est pas beaucoup beaucoup utilisé, parce que ça doit prendre de la ressource quand même de tout péter. Et là, ça a pas l'air d'être immense les scènes où se déroule.
Est-ce que tu pourrais pas tirer dans toutes les fondations de la maison pour qu'elles s'écroulent sur les...
Je pense pas qu'ils soient allés jusqu'à ce niveau-là.
Ce serait une bonne idée.
Ouais, mais du coup, si t'as des otages, c'est un peu hoche quand même.
Bah, faut que tu calcules pour qu'il y ait qu'une seule pièce qui reste debout. Et là, ça devient très intéressant.
Faut que tu fasses un rond avec ta mitraillette autour d'eux.
Pour qu'ils descendent d'un étage.
Au moment où tu défonces les fondations, tu jettes un grappin sur le mec pour que lui ne tombe pas.
Ah, tu peux quand il n'y a qu'un seul mec.
De l'hélicoptère,
De l'hélicoptère.
Bah, si on
est. Faire quand même un trou dans le toit.
Bah, ouais, mais il faut se synchroniser. On est
si on joue à 4. On lance chacun notre grappin, on sauve chacun une personne et la mission est réussie. Vous voyez, ça commence à nous parler.
Ça ressemble plus à une partie de Monaco, la façon dont
Puis, l'autre élément qui m'a plu par rapport à ce qu'ils ont montré, c'est justement le côté coop contre l'IA qu'ils ont montré.
Oui, tu peux même jouer si t'as pas beaucoup d'amis.
Il y a des missions, surtout un système qui est sympa. Toi, tu as ton équipe de potes. Tu lances le mode, tu sais pas encore quelle va être la mission. Tu te fais pas chier à régler. Tu dis, allez, on se fait une mission, on se fait un truc. Et du coup, après, à toi de t'organiser par rapport à ce qu'il t'a proposé.
C'est une mise
en situation. Je trouve que ça, c'est bien pensé. Et c'est un peu, toi, le même délire que sur Halo, le fait de pouvoir se plonger ensemble dans une aventure, c'est toujours une expérience qui est assez gratifiante derrière.
Mais c'est clair.
Dans Rainbow Six, il n'y a pas un mec qui se tape le bouclier en permanence?
Ça, je me suis demandé.
Ça, c'est ce que toi, tu feras.
Bah, il se propose
pas facile pour toi.
J'ai toujours les rôles de merde, faut que j'arrête les jeux
obligé.
Vidéo.
Mais, comme ça, t'as pas besoin de mal tirer sur les mecs.
En même temps,
une mission.
Tu te proposais de le faire, Simon, tu m'as dit, tiens, moi je ferais le mec avec le bouclier, justement.
Ah oui, je l'ai dit.
Ouais, tu m'as dit ça, comme ça t'as pas de responsabilité.
Je sais ce que je vaux à peu près, c'est bien. J'ai au moins ce mérite.
Mais t'as quand même un petit pistolet de grenade hein, quand t'as le bouclier.
Ah! Tu peux mettre. Puantes. Si tu te fais chier, tu balances la grenade et tu fais c'est bon, j'ai le bouclier pour me protéger.
Ouais, exactement.
C'est un moment sympa. Bah écoutez, on a fait le tour de. On a fait le tour, non? Ubisoft.
Mais du coup, tous les trucs sont circulaires parce qu'on fait le tour à chaque fois. Y a pas de truc carré ou triangle?
Ça va venir, puisqu'on arrive sur Sony, mon pote. Hey, t'as vu ça, comment j'ai transformé
oh, pas mal.
Ta vanne en.
Élégant.
Hop là.
Avec une connaissance extrême du jeu vidéo.
Triangle, carré, croix rond.
En tout cas, Ubisoft.
On croirait que c'était prévu.
Je sais pas si vous avez eu cette sensation, là je deviens extrêmement sérieux. Entre EA et Ubisoft, on dirait qu'ils ont inversé, tu vois, leur rôle. J'ai vu beaucoup plus de mitraillettes que d'habitude chez Ubisoft et un peu moins chez EA,
oui.
Grâce notamment à un petit jeu sympathique qu'on parlera la prochaine fois.
Bah enfin, parce que tu fais... Enfin bon, non, il n'y avait pas trop de flingues chez EA, mais on a quand même fait l'impasse sur tous les jeux de sport dont on n'a rien à carrer là.
Ouais.
Parce qu'il y en a eu quand même beaucoup hein, pendant la conférence.
Ah bah oui, il y a toujours la partie. Ouais.
Mais parce que là, on fait comme si ça n'existait pas, mais c'est quand même surtout ça la conférence IA.
Bah, c'est juste
NFL,
que.
Des NFL, des machins.
Bah, c'est vrai que si là on fait un bilan de la conférence IA, voilà.
Là on parle de nos goûts. Donc, voilà.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux autres années, quand je prends la conférence en global, chez EA, il y avait quelques petits trucs un peu sympas. Il y avait eu le Star Wars à la fin qui a fait plaisir. D'habitude, je me faisais chier du début à la fin. Là, j'ai eu quand même plein de trucs. Et chez Ubisoft, j'étais très déçu à
beaucoup
finir sur le Ghost Recon à la fin. Encore des flingues partout.
Oh, puis il va être chiant ce jeu.
Hein, voilà.
Oui, mais il est fait en France.
Bah, c'est pas parce que c'est fait en France que c'est bien. Il y a des trucs nuls.
C'est bien pour l'économie française, monsieur.
Bah, seulement s'il marche, si le jeu est nul.
Elle se planterait mieux
l'économie
française si hein, il faisait ce qu'il fallait, ce qu'on voit faire dans d'autres pays. Hein.
Mais non, mais justement, on en parle ou pas?
De quoi?
Bah, les crédits d'impôt étaient renouvelés sur les jeux vidéo en France. Et en plus, ils ont levé le blocage sur les jeux interdits au moins de 16 ou 18, je crois. Ce qui fait qu'en France, on va pouvoir produire des jeux qui se vendent, c'est-à-dire des jeux PEGI 18.
Ah, ça, c'est
donc
bien.
C'est plutôt une bonne nouvelle
ça,
et dans
ça,
le
ouais.
milieu du jeu vidéo en ce moment de ce que j'en connais on se dit s'il faut faire enfin s'il y a un moment pour le jeu vidéo en France c'est maintenant parce que toutes les vannes sont ouvertes
oui.
C'est le bon moment pour faire
ouvert.
Des jeux pour faire des jeux
on va
peut-être faire des jeux qui se vendent maintenant
on va arrêter ce podcast et puis on va se mettre à faire un jeu. Qu'est-ce
allez c'est parti
là
un jeu avec un chat là
oui t'en fais pas il va revenir je vais te solliciter bientôt.
Ouais
ils sont en train de faire un jeu les deux
depuis 2 ans.
Mais non mais c'est parce que j'ai changé de moteur. Je passe à Unity.
T'as mis une R12
quoi?
J'ai encore arraché les cheveux.
Changer tout le temps les moteurs, attention. Ça
bah non, mais j'étais trop limité.
Ah,
c'est limité.
Vous verrez ça en tout cas, peut-être un jour. On fera.
En
moi, je ferai
bonus.
Un voxel. Je ferai un voxel tout seul, tu vois, pour pas qu'il y ait d'influence. Tu me donnes ton jeu et puis je le découvre et voilà, je fais ma critique en direct. Elle sera extrêmement sévère. Hein.
Allez, on arrête la digression que j'ai lancée moi-même.
Bon, bah, c'était bien gentil Ubisoft, mais ça m'a un peu cassé les couilles. Moi, j'ai envie de m'arrêter là, les gars.
Oh, bah, c'est triste.
Bah, dis donc, t'es pas bien courageux, ça.
Y a pas eu assez de surprises à cette E3, j'ai même pas envie d'aller jusqu'au bout. Je propose qu'on interrompe le podcast immédiatement et qu'on refasse plus jamais de podcast.
À cause de Simon D.
Quoi? Non, à cause de l'E3.
Non.
Simonde.
Je suis immonde.
les gars, vous devinez à travers nos phrases un peu sibyllines un problème technique qui arrête le podcast en plein milieu. Mais on a quand même bien envie de vous faire les fameuses conférences jusqu'au bout. Donc on va faire une deuxième partie et puis une troisième partie sur les indés.
Ouais.
Ah, c'est le bordel.
On aura plein de choses à dire.
J'espère. Le problème, c'est que moi, j'ai déjà tout dit et j'ai peur de... Tu sais, ça te vide l'esprit. Et je saurais plus redire pareil.
Oh, moi, je dirais surtout ça va faire comme les voxels. Le premier un peu mou, puis le deuxième est mieux. Plus concis, plus efficace.
Ah, je me suis pas trouvé mou, donc...
Nous, on l'était bien.
La prochaine fois, je serai mou.
1/3, ça va.
Bah, du coup, on se retrouvera avec... Sony, Nintendo, Square et la conférence PC et nos rubriques extraordinaires, la question qui pue et la chanson, bientôt à un moment donné.
On vous fait ça au plus vite, hein.
Hein, on essaye, on essaye.
Et avec des enregistrements de sécurité, avec les filets, les contre-filets, tout ce qu'il faut. Hein.
Mais peut-être qu'il faudrait demander à Manuel Valls, hein, il va peut-être enregistrer tout ce que j'ai dit. Mais...
Ah, ah
mais oui, on est bête.
On peut expliquer que nous, on a fait le podcast en entier, donc 3 heures, puis le podcast sur les indés qui a duré 1h30. Et à la fin, en fait, on n'avait pas le son de tout le monde. On n'a que 1h30 du début, voilà. Donc on est obligé de tout refaire, les gars. C'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps.
C'est un échauffement.
C'est bien, bien, bien chaud. Là, on est bien chaud. On est bien, 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 bien vénère, bien chaud. Bon, ben on fait quand même des bisous à tout le monde et puis
sauf
on
à,
se retrouve
à
bientôt.
Je mérite pas.
À très bientôt.
Bisous, bisous. On remet ça.